Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, dirigé successivement par Serge de Beketch et par Daniel Amiche, assisté de Marie. Document d'archives du 13 mai 1998, rediffusé dimanche 5 octobre 2014 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Amis de la Résistance, bonsoir, mesdames et messieurs les collabos, profitez-en bien et faites-vous prendre en photo avec vos cheveux, parce que comme ça, ça vous fera un beau souvenir quand vous aurez été tondu. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de pas bien? Non, je suis obligé de dire une chose pas bien au début de l'émission, parce que sans ça, l'inspecteur Mendès France s'ennuie. Il sait pas quoi noter sur son rapport. Donc, je dis un truc pas bien. Tiens, je vais raconter une histoire pour commencer. Elle est pas bien du tout. C'est un instituteur de banlieue qui décide d'organiser une sortie à la campagne. Alors, il loue un autocar et il met tous les enfants de l'école dans l'autocar. Puis, naturellement, entre Black Beurre et Franchouillard, ça finit par se friter sérieusement. Alors, excédé, l'instit dit, bon, écoutez, ça suffit maintenant. Les noirs, vous allez au fond. Les beurs, vous mettez au milieu de l'autocar et les blancs, vous venez devant. Hein, parce que, alors, protestation, naturellement, de tous les enfants qui disent, mais enfin, c'est du racisme, c'est de l'exclusion. L'instituteur dit, oui, pardon, j'aurais dû mieux réfléchir. Je vous demande pardon, mes enfants. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de blancs, il n'y aura plus de noirs, il n'y aura plus de beurs, il n'y aura que des gris. Nous serons tous des gris. Et allez en route, on part en chantant, et au bout de 10 minutes, tout le monde recommence à se taper sur la figure. Alors l'instituteur arrête le car et il dit, bon alors, les gris foncés au fond, les gris gris au milieu et les gris blancs devant. Voilà, celle-là, elle vaut combien à votre avis? Non, elle vaut rien. Qu'est-ce que je vous dis? Ah, j'ai une annonce à faire pour commencer, d'abord les invités. Alors, de gauche à droite et dans le désordre, François Guillaumat, qui m'a présenté le texte qu'il allait dire tout à l'heure. Je vous rassure, ça ne durera pas plus de 3 quarts d'heure, à mon avis. Le sujet, c'est incapacité intellectuelle et mauvaise foi du démocrate social. Ça y est, j'ai le trou. Le général Dièvre, parce que je vous demande pardon, vraiment. Et pourtant, j'ai pas bu. Hein. Le général Dièvre qui vient nous parler du docteur Dor et de la prochaine manifestation devant la clinique Jeanne d'Arc. Aude et Jacques, qui viennent nous parler de... Alors là, si vous n'êtes pas assis, mesdames, je vous laisse, et mesdames et messieurs, je vous laisse 2 minutes pour vous asseoir, parce que c'est quand même pas tellement le genre de la maison. Ils vont nous parler de rock identitaire. On aura vraiment tout fait dans cette émission. Et puis, Philibert, qui ne cherche pas de lumette, mais qui est à ma droite, et qui va, lui, nous parler d'un autre genre de musique, qui est la musique militaire.
Oui, donc ce soir, nous rentrons en plein dans le cycle musique militaire, avec les chants et les marches des régiments qui ont libéré la France.
Libérer la France des Allemands.
Ah oui, des Allemands, excusez-moi.
Oui, il faut préciser, parce que pour l'instant, il reste quand même pas mal de boulot. Alors,
mais il n'y a plus beaucoup de régiments.
C'est ça le problème. Et puis nous attendons M. l'abbé Laguéry, qui est actuellement pris en otage par les grévistes de la SNCF, et on attend qu'il soit libéré. J'espère qu'il n'est pas venu en soutane, parce que sans ça, ils vont le garder. Donc, qu'est-ce que j'étais pour dire? Oui, alors, le dîner du Libre Journal. Vous savez que la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, j'ai lancé l'idée d'un dîner du Libre Journal qui aura lieu vendredi à 20h, vendredi prochain, 15 mai à 20h. Je pensais avec un certain optimisme qu'on serait 100, 150. Et j'avais donc réservé une salle en conséquence. Il se trouve qu'on se dirige allègrement vers les 300. Donc nous avons été obligés de changer de salle. Alors, je le dis à toutes les personnes qui avaient gardé en mémoire une salle près de la Villette, ça ne se passera pas là. Ça se passera dans une salle près de Vaugirard. D'ailleurs, plus grande, mieux aménagée, avec un micro, on pourra parler, on pourra chanter, on pourra même peut-être danser si les dames le veulent. Mais pour avoir l'adresse, que je ne veux pas donner au micro pour des raisons de sécurité, des raisons techniques, je demande à toutes les personnes qui ont réservé, ou les personnes qui veulent encore réserver pour ce dîner, dont le prix du triangle, c'est un vieux mot maçonnique, est de 150 francs. Donc les personnes qui voudront encore réserver, il reste quelques places. Je vous demande d'appeler à partir de maintenant, demain toute la journée et vendredi encore toute la matinée, pour avoir l'adresse, la nouvelle adresse, car l'adresse a changé. Est-ce que je suis bien clair ? Jacques, est-ce que c'est clair ?
C'est parfaitement compréhensible.
Voilà.
Alors, il faut donner un mot de passe.
Non, il faut donner son nom puisqu'on a réservé. Donc le numéro de téléphone, c'est celui du Libre Journal. Je vous demande d'appeler le 45 23 51 01 ou le 45 23 51 02. Et vous aurez mon adorable petite femme qui attend au bout du téléphone, ou Evie qui attend au bout de l'autre téléphone. Et je les embrasse bien fort parce qu'il fait au moins 45 degrés dans les bureaux et je pense qu'elles doivent bien s'amuser. Alors vous pouvez appeler dès maintenant 45 23 51 01 ou 02 pour avoir...
Mais 02, la... c'est pas un fax.
On a enlevé le fax pour mettre un appareil téléphonique. Ce qui est une preuve d'intelligence de notre part. Pour avoir deux lignes, voilà. Donc vous aurez l'adresse de ce dîner qui sera très sympathique. Je précise quand même une chose à l'attention des mal intentionnés, c'est que ce dîner se déroule dans une salle qui est juste en face d'un commissariat central. Donc, à mon avis, question sécurité, on pourrait passer un bon moment s'il y avait des initiatives malheureuses.
Voilà ce que vous faites vraiment confiance à la police de votre pays.
Ah, moi je fais confiance à la police de mon pays, oui, ça... Justice, moins, mais la police, alors oui, ça, je les ai vus à l'œuvre. Vous n'étiez pas né en 68, François. Ouais, voilà, c'est ça. Vous n'étiez pas né en 68. Mais comment peut-on n'avoir pas été né en 68, Jacques ?
Ah, je me pose la question.
Voilà. Je trouve ça répugnant.
C'est très facile à vivre. Hein.
Oui, c'est ça. Bon, ça va. Alors donc, message personnel à l'intention de ma femme. Chérie, prépare-toi à répondre au téléphone. Parce que ça va chauffer. 45 23 51 01 pour la nouvelle adresse du dîner, pour réserver quelques-unes des places qui restent. Déjà, les messages arrivent. Des gens aux cheveux longs qui sont nationalistes, il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. Mais j'ai pas voulu dire du mal des gens aux cheveux longs. Moi-même, il m'est arrivé d'avoir les cheveux longs. J'ai voulu simplement lui dire que les collabos devraient se faire photographier avec leurs cheveux. Parce qu'ils vont pas les garder. Voilà. L'histoire que vient de raconter Serge de Beckett vaut 2 mois d'emprisonnement, mais qu'il se rassure, je ne le dénoncerai pas. C'est gentil, c'est gentil, monsieur. Si vous voulez une démonstration de la crapulerie d'une certaine presse, il faut lire, alors vous le faites prêter par votre coiffeur, le dernier numéro du Point. Vous savez, dans le Point, il y a une rubrique qui s'appelle en marche, en panne, je sais pas quoi. Et alors, ils ont mis en panne...
C'est plutôt un arbitre des élégances.
Oui. Alors, ils ont mis en panne deux types de l'opposition qui ont été inculpés. Je ne sais même plus qui c'est, mais enfin, bon, peu importe. Et Vial. Pierre Vial. Vous savez pourquoi ils ont mis en panne Pierre Vial ? Parce qu'il vient d'être nommé vice-président de la commission culture de la région Rhône-Alpes par Monsieur Millon. Donc, dans l'esprit des gens du Point, c'est aussi mal d'être nommé vice-président de la commission culture du conseil régional Rhône-Alpes que d'avoir tapé dans la caisse du conseil régional de je ne sais
mais
quel...
Mais c'est un phénomène très bizarre que ces corbeaux dans les hebdomadaires politiquement corrects. Il faudrait quand même savoir comment ils s'appellent.
C'est même pas signé, ça.
C'est signé, cette cochonnerie-là.
On les tondra, mais bon...
Il faudrait savoir qui attrapait.
Voilà. À propos de l'esclave, je sais que c'est très, très à la mode, l'esclavage. Alors, la semaine dernière... Non, il y a 15 jours, j'ai expliqué des trucs rigolos sur l'esclavage. Mais là, je vais publier dans le prochain numéro du Libre Journal, publicité non payante. L'abonnement, c'est 700 francs. Et on voit 4 places France Lit. 75-010 Paris, c'est ça.
Sans doute.
Il fait semblant de pas savoir parce que j'ai pas passé de papier d'huile la semaine dernière parce que ils étaient trop longs. Alors ils se vengent. On les trouve toujours sur le Minitel 36-15
du
Libre Journal.
Où
vous pouvez envoyer vos questions. Alors donc je disais, je publie un article sur une forme d'esclavage qui est tout à fait intéressante et dont personne ne parle, qui s'appelait l'indenture. Je suis sûr que vous savez ce que c'était, l'indenture.
Oui, mais c'est plutôt un mot anglais, ça.
Oui, indentured servants.
Ça oui, c'est un esclavage temporaire.
Voilà, alors les indentured servants, c'était des personnes dont le dictionnaire Random House dit qu'elles vinrent en Amérique et furent placées sous contrat afin de travailler au service d'une autre personne pour une période de 7 ans. L'indentured servant n'avait aucun moyen de s'affranchir de cette tutelle, tandis que son maître, sachant qu'au terme de 7 années de servitude, son esclave s'en irait de toute façon, avait de moins en moins de motifs, les années passant, de ménager un capital qu'il était assuré de perdre. Accessoirement, un indentured servant, mort, ne risquait pas de venir se venger une fois rendu à la liberté. Donc c'est tout ça pour vous dire que ces gens-là, ils étaient dans une situation un peu moins rigolote que les esclaves normaux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que au XVIIe siècle, des lois dites « durante vita » portèrent à perpétuité le statut des indentured servants, qui pouvaient être noirs ou blancs. Ouais. Comme les maîtres, d'ailleurs. Alors ça, si vous entendez ça sur une autre radio...
Mais il y avait des esclaves qui avaient des esclaves aussi.
Je vous, absolument. Si vous entendez ça sur une autre radio, je vous paye des prunes. Voilà. C'est probablement un des aspects les plus sévèrement censurés de l'immense mystification qui entoure la légende de l'esclavage afro-américain. John Hope Franklin de l'université de Duke, qui est le plus important historien afro-américain. Afro-américain. Hein, donc il ne peut pas être raciste, hein, ça c'est clair. Donc ce monsieur, John Hope Franklin, il évoque des archives faisant référence à des noirs affranchis, propriétaires eux-mêmes d'indentured servants blancs. Donc en Amérique, au XVIIe siècle, il y avait des blancs réduits en esclavage par des noirs. Un autre universitaire afro-américain, le professeur Ervin Jordan Jr., professeur d'histoire contemporaine à l'université de Virginie, a établi qu'en Louisiane et dans les deux Carolines, dès le début du XXe siècle, des affranchis noirs enrichis étaient propriétaires de nombreux esclaves. Et il indique même que ces gens-là ne passaient pas aux yeux de ces derniers pour les meilleurs des maîtres. Certains possédaient des dizaines de têtes au point de rivaliser par exemple avec Jefferson, dont un film mystificateur brossa récemment le portrait délirant et qui fut en son temps l'un des plus grands propriétaires d'esclaves du Sud. Maintenant, il est devenu un des parangons de la démocratie, dans le bestiaire. Parmi ces richissimes propriétaires ou industriels noirs, Jordan cite Antoine Dubuclet et James Ellison. Ce dernier fit fortune dans le coton et le traitement de celui-ci en développant l'une des principales fabriques de batteuses à coton du pays grâce au coût réduit d'une main-d'œuvre d'esclaves qui comptait jusqu'à 60 paires de bras. Dubuclet, lui, en procéda plus de 100. Une ancienne nounou, façon autant n'emporte le vent, la veuve C. Richards et son fils planteur de canne en possédaient 152. À la même époque, 125 noirs affranchis de Charleston en Caroline du Sud étaient propriétaires d'esclaves. En Caroline du Nord, 69 affranchis noirs exploitaient un cheptel humain. Est-ce que vous avez déjà entendu ça quelque part ? Vous saviez, vous, ça ?
Non.
Voilà. Qui le savait ici ?
Personne.
Voilà. Personne.
Bon, ben maintenant, vous le savez. Voilà. Et alors, pour la cerise on the cake, the cherry on the cake, puisqu'on parle de l'Amérique, Dubuclet, l'esclavagiste noir, occupait en Caroline du Sud le fauteuil de secrétaire d'État au trésor de l'État. C'est un détail qui, me semble-t-il, remet à sa juste place la forgerie d'un Sud abruti de haine raciale auquel le Nord généreux aurait apporté la tolérance et la liberté.
Il y avait aussi une des observations qu'on faisait à l'époque, c'est que les Irlandais libres, nominalement libres, vivaient beaucoup moins bien du point de vue matériel que les esclaves noirs du Sud des États-Unis.
Alors justement, c'est aussi dans l'article qu'il y a une comparaison entre le statut des enfants anglais à la fin du XIXe siècle et qui étaient dans les fabriques en Angleterre et des enfants qui étaient dans les plantations dans les États du Sud. Et il n'est pas absolument démontré que les enfants noirs des plantations dans les États du Sud aient eu un sort moins enviable que les enfants blancs dans les fabriques dont M. Dickens parle dans son œuvre. Voilà, si vous voulez en savoir plus.
Il y a un autre aspect très intéressant de ce que vous avez dit, c'est que lorsque l'esclave est temporaire, on n'a pas intérêt à maintenir sa valeur. C'est-à-dire qu'on a intérêt à l'exterminer juste avant la date de sa libération. Et ça explique pourquoi une mesure d'humanité qui avait été imposée par l'Église catholique dans les colonies espagnoles s'est retournée contre les esclaves. Elle avait dit au bout de 20 ans, de 40 ans, on est obligé de les libérer. eh bien, au bout de 20 ans ou de 40 ans, ils étaient pratiquement morts. Oui. Et ça permet d'ailleurs de comparer cet esclavage-là, qui est fondé sur la propriété privée, quelle qu'en soit l'origine, avec l'esclavage socialiste. L'esclavagisme socialiste a effectivement des esclaves, mais étant donné que la propriété de l'esclavagiste socialiste n'est pas une propriété privée, il n'a pas intérêt à maintenir la valeur de ses esclaves.
C'est tout le problème. Enfin, c'est le problème qui n'est jamais traité.
Ce qui prouve que l'esclavagisme socialiste est bien pire que celui des États du Sud, des États-Unis.
C'est quand même extraordinaire d'arriver à faire pire que l'esclavage. Mais il y a même du pire là-dedans. Voilà. La suite maintenant. Parce que alors, il faut que je parle, il faut que j'interroge, il faut que je signale que pour avoir des informations sur le dîner du Libre Journal, il faut appeler le 45 23 29 51. Non, 45 23 51 01 ou 02. Et puis, il faut que je donne la parole au général Dièvre pour nous dire ce qui va se passer à propos du combat contre l'avortement et lui poser une question que pose un auditeur. Pourquoi, mon général, ne marchez-vous pas main dans la main avec Christine Boutin pour les manifestations anti-avortement?
Bon, je répondrai après, si vous voulez.
Oui.
Bon, je vais donc parler d'abord de la manifestation, qui n'est pas vraiment une manifestation, qui est un rassemblement de prières que SOS Tout Petit organise une nouvelle fois, la dernière date du 25 avril, pour prier pour toutes les victimes de la clinique Jeanne d'Arc, qui, malgré son nom, est un des avortoirs les plus sinistres de la région parisienne.
Et d'ailleurs, on devrait lui interdire de s'appeler comme ça. Quand
ben oui, mais j'ai pas de pouvoir dans ce domaine. Alors, cette réunion de prière publique aura lieu le samedi 16 mai, rendez-vous à 14h précise à l'angle de la rue Château des Rentiers et de la rue Tolbiac au métro Tolbiac. J'insiste sur le fait qu'il faut être à l'heure, à 14h précise, parce qu'il faut que nous soyons aussi nombreux que possible dès le début de la manifestation, parce que les événements se déroulent quelquefois très vite. Et si on arrive à 2h15,
vous avez déjà été embarqué.
C'est déjà terminé.
Voilà.
Donc, et on n'a pas été assez nombreux au début. Donc, il faut être à l'heure. Il faut être à l'heure et il faut être nombreux. C'est très important que nous soyons
l'autocar
nombreux.
L'autocar part pour le poste de police à 2h10. Donc, soyez là.
En gros, quelquefois. Alors, notre effectif avait bien augmenté la dernière fois, grâce en particulier à la participation de beaucoup de jeunes garçons et filles qui s'étaient joints à nous, et dont la présence constitue un témoignage extrêmement important. Et il faut que d'autres se joignent à eux. Et puis, je crois qu'on peut faire beaucoup mieux et qu'il faut que les gens qui nous écoutent s'interrogent sérieusement pour savoir si, quel que soit leur âge d'ailleurs, qu'ils aient 17 ans ou 87 ans, s'ils ne peuvent pas se déranger pour se joindre à nous. Plus on est nombreux et mieux les choses se passent. Je précise que cette réunion est déclarée par mes soins d'ailleurs et d'autres dans des conditions parfaitement légales et réglementaires. Et à ma connaissance, à l'heure où je vous parle, elle n'a pas été interdite. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de danger. Il ne faut pas craindre de venir. Bon, bien sûr, il y a devant nous des gauchistes qui hurlent leur blasphème. Enfin, en général, la police s'interpose entre eux et nous. Et puis, si on est amené au poste de police, c'est sans conséquence. Un contrôle d'identité, on est retenu pendant 2 ou 3 heures. Et pendant tout ce temps-là, on prie dans les commissariats de police et jamais les murs et les personnels de la police n'ont entendu autant d'Ave Maria chanter que ces jours-là. C'est assez extraordinaire quand vous êtes 60, 80...
Ça leur fait sûrement beaucoup de bien.
...dans des salles de rétention et que pendant 2 heures, on chante le chapelet pour l'édification des personnels de la police, qui sont sensibles d'ailleurs très souvent. Voilà.
Donc vous aussi, vous avez confiance dans la police de votre pays?
Ah bien, pour ramasser les gens, oui, ils ont une bonne technique, mais je dois dire aussi qu'ils s'interposent entre les gauchistes.
Bah, parfois quelques auxiliaires bénévoles.
Et certains, d'ailleurs, nous témoignent leur sympathie avec discrétion, mais d'une toute façon, non, pas caché. Voilà, donc rendez-vous samedi, 14h précise, à l'angle de la rue du Château des Randiers et de la rue de Tolbiac, pour prier ensemble et publiquement pour toutes les victimes de l'avortement. Voilà, et venez nombreux.
La semaine prochaine, c'est pas vous qui venez, mon général, c'est le docteur Dor.
Ah, la semaine prochaine, je ne suis pas convié, c'est le docteur Dor. Il viendra peut-être parler de son livre, je pense.
Ah, c'est l'idée en gros.
Bon, alors, son livre qu'il faut lire, parce que il est vraiment lumineux. C'est un livre dont les médias ne peuvent pas parler, à mon avis, parce qu'il est absolument irréfutable. Oui. Donc il ne peut rien en dire.
Il est comme l'éléphant. C'est que Vialat disait, l'éléphant est irréfutable.
Oui, mais là, ce livre est irréfutable. Il est d'une clarté et d'une évidence absolument lumineuse. Et par conséquent, il faut absolument le lire. Alors, il s'appelle « Le crime contre Dieu ». Il est édité par les éditions Perrin et Perrin.
Perrin and Perrin.
46 rue Sainte-Anne, dans le 2e arrondissement de Paris. On le trouve dans les librairies amies. On le trouve aussi à la procure, ce qui est intéressant à signaler. Et il ne faut pas hésiter à le demander à la procure, qui en a pris des exemplaires en dépôt.
Mais absolument, pour une fois qu'ils font quelque chose.
Voilà, il faut les encourager. Absolument. Il ne faut pas hésiter à les encourager.
Non, je blague. En réalité, quand je dis pour une fois qu'ils ont fait quelque chose de bien, c'est pas vrai, parce qu'ils sont assez ouverts, la procure. Bon,
ils vendent beaucoup de choses qui sont surprenantes, mais ils vendent des choses intéressantes.
Ils vendent aussi de bons ouvrages.
Voilà, et puis enfin, le mot de la fin que je voudrais dire, mais qui n'est pas sans importance, c'est que, bon, tout le monde ne peut pas venir à nos réunions, mais tout le monde peut nous aider, et en particulier nous aider financièrement. Toutes ces manifestations que nous organisons à répétition et fréquemment coûtent cher, et nous avons besoin d'aide. Alors, on peut envoyer des dons à SOS Tout Petit, boîte postale 243-08, 75-364, Paris CEDEX 08. Alors, boîte postale 243-08, 75-364, Paris CEDEX 08. Voilà, tous les dons, même minimes, seront les bienvenus parce qu'on a vraiment des grands besoins.
Merci, mon général. Dans quelle arme avez-vous...
Dans le génie.
Dans le génie. Ouais. Bon, bah tant pis. J'espérais que vous me répondiez, que vous alliez me répondre dans la coloniale ou dans l'armée d'Afrique.
Je n'étais pas dans la coloniale.
Tant pis, alors vous devrez vous contenter du chant des Africains pour saluer votre départ.
Mais j'ai servi en Afrique longuement.
Nous étions enfants de la paix, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant, c'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par un courbifoyé, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez-tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Pour le salut de notre empire, nous combattons tous les vautours, les vautours. La fin, la mort nous font sourire. Quand nous luttons pour nos amours, en avant, en avant, en avant, c'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par un courbifoyé, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. De tous les horizons de France, groupés
sur le sol africain, nous venons pour la délivrance, qui par nous se fera demain. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver l'Afrique.
On va chanter le chant des Africains parce que ça s'écoute debout. Dans le studio, c'est pas du tout pratique d'être debout. Qu'est-ce que c'est que ce chant des Africains?
Alors, les Africains, ce n'est pas la marche officielle d'une grande unité ou d'un régiment. Elle symbolise en fait l'importance et la vaillance de tous les régiments venus de toutes nos colonies ou mobilisés en 43, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, pour former le corps d'armée du général Juin en Italie. Donc tous ces régiments de l'armée d'Afrique, les Africains, vont constituer l'ossature de l'armée du général Delattre, qui va fournir 90% des effectifs aux côtés des 20 000 Français de métropole qui vont rejoindre l'Afrique du Nord après avoir traversé les Pyrénées pour libérer la France.
On sait qu'il a écrit paroles et musique ?
Non, donc personne ne le sait.
Les droits d'auteur sont dans le domaine public ?
Théoriquement, les droits d'auteur sont du domaine public.
Je vais essayer de le déposer, peut-être. À moins que Jacques Marchal, qui compose un peu, veuille...
Nous allons parler d'un tout autre genre de musique. Enfin, pas si étranger que ça, la musique militaire. On va peut-être y revenir. Je suis là avec la délicieuse Aude. Nous sommes les deux des membres disponibles pour l'heure.
On aurait pu lui faire chanter le Horse Vessel.
Non.
Si, le Aude Vessel.
Ah
non. Oh là là.
Elle est bonne, celle-là.
Il fallait rire, chers auditeurs.
Merci.
C'est fini. Oui, nous sommes là à titre de représentant du groupe Elendil, E-L-E-N-D-I-L, vous avez bien noté, du groupe Elendil, qui est un groupe de rock identitaire. Alors, je crois qu'il convient que nous nous livrions une petite explication de ce que c'est. Eh bien, c'est du rock, c'est identitaire parce que c'est français, que ça nous plaît, que nous faisons ça pour nos amis, pour nous, pour notre peuple, pour notre tribu, pour notre civilisation, pour tous les gens qu'on aime, quoi, dont vous faites partie, chers auditeurs, bien sûr.
Et pas tous, c'est pas sûr.
Ah, mais on verra. Et donc ce groupe Elendil qui existait d'ailleurs avant que j'y suis, que je m'y joigne, car c'est un groupe qui a été fondé, je crois, il y a 3 ans environ.
Oh là là, le groupe a au moins 5 ans, mais il a végété pendant de nombreuses années avant finalement de finir par sortir quelque chose.
Et auquel je me suis joint, voici environ 6 mois, pas plus. Alors bon... plutôt que de parler de Elendil, je suggère qu'on en passe un petit morceau. Avant, je voudrais remarquer que le rock, identitaire ou pas, il a énormément de points communs avec la musique militaire.
C'est dommage que le général soit parti, parce que ça aurait été intéressant d'avoir son avis.
Il s'écoute debout. Il se joue debout, en mouvement, en mouvant, en marchant.
En bougeant.
En bougeant. La façon de danser, les façons actuelles, modernes de danser le rock, c'est un peu une façon de marquer le pas sur place, finalement.
C'est un peu comme dans les cages du zoo de Vincennes.
C'est un point de vue.
C'est un peu ça.
Personnel.
Je te laisse.
Il n'y a pas de musique au zoo de Vincennes.
Oui, il n'y a pas de musique.
Mais c'est la différence. La supériorité du singe sur le rocker, c'est qu'il n'a pas besoin de musique pour danser.
Bon, alors, Serge de Becquet se posait le problème ainsi. Le rock est-il une musique de singe? Ça arrive, mais pas le nôtre, parce qu'on n'est pas des singes. Et ça, on va s'en rendre compte tout de suite.
Ah non, mais moi...
Si l'on daigne nous passer un extrait du premier CD publié d'Elendil, il s'appelait Sur les toits, il est paru il y a 6 mois.
À propos de musique, quand même, il faut savoir que si j'ai invité ces jeunes gens, c'est parce qu'il va y avoir un concert identitaire, concert de rock identitaire, le 9 mai dernier à Paris.
Oui, alors ce concert a été interdit.
Il a été interdit. C'est-à-dire que l'autre jour, il y avait une rave party, comme ils disent, dont on sait que les participants se shootent avec tous les produits en circulation possible, les gendarmes sont pas intervenus. Quand il y a des concerts de rap, vous verrez jamais un képi à 200 km à la ronde.
Non, ils sont subventionnés.
Et en plus, on leur donne du fric. Mais là, le rock identitaire, parce que c'est français, alors c'est Stringverboten. Alors on va en écouter pour savoir que vous sachiez au moins quelles sont les raisons pour lesquelles on les interdit, parce que c'est peut-être
sûrement des partisans de la haine et de l'exclusion.
Mais il y a peut-être aussi des raisons d'esthétique pour lesquelles on interdit le rock identitaire. Je pense, on va vérifier.
I la capitale. Je marche dans ce monde brutal. Sur les toits, un matin banal se lève le soleil sur la capitale. Je regarde en bas et je dis ça. J'ai passé ma nuit au commissariat. Je n'ai pas vraiment bien compris pourquoi. Je ne suis pas comme eux, ça ils m'aiment pas.
Alors Aude, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense?
Alors ben, pour ma défense, je me sens pas trop agressée pour l'instant, ça va, donc c'est bon. Bon en fait voilà, nous en fait on fait de la musique, déjà première raison quand même la meilleure, c'est parce qu'on aime ça. Enfin c'est notre truc quoi, on adore ça, on se force pas à faire de la musique hein. Et comme nous avons un certain nombre de choses à défendre et à dire, bon ben voilà, nous sommes dit que nous avons ce moyen de la musique qui est là à porter à notre disposition. Et c'est pour ça que nous utilisons la musique pour faire passer bah, tout ce que nous aimons, tout ce que nous n'aimons pas, moins, un peu, enfin, ce que nous avons à dire, quoi.
Dans le disque, enfin, sur la pochette du disque, vous faites des remerciements. Alors, je voudrais les lire parce que c'est assez rigolo. Enfin, il y a des remerciements à des gens qui méritent des remerciements.
Oui, mais alors, les non-remerciements voilà, n'ont pas été appréciés.
C'est la deuxième partie qui est plus rigolote. Alors, nous remercions, enfin, remercie un tel, et puis ne remercie pas. La première section des renseignements généraux.
Vous savez que l'IB s'est posé la même question que vous. Alors en fait, si on répond avec la mentalité Hélène Dill, bon, on dira on leur a demandé des cadeaux à Noël, ils nous ont rien donné, donc on remercie pas. Bon, ça c'est l'humour. En fait, sur le fond, on les remercie pas parce que en fait, cette ligue est bourrée de gens qui en 68 est en train de crier, il est interdit d'interdire. Et résultat,
alors là, vous parlez de la Ligue des droits de l'homme.
Oui, non, mais c'est les gens qui, enfin, ces gens-là se revendiquent de ce genre de principe. Et ils passent leur journée à scruter nos textes pour aller trouver l'allusion ou le détail qui va leur permettre de nous attaquer. Donc c'est pour ça qu'on les remercie pas, parce qu'en fait, ils nous obligent à faire gaffe, quoi.
Mais ben justement, c'est pour ça qu'il faut les remercier. Alors, vous avez rien compris. Moi, c'est pour ça que je remercie tout le temps ici l'inspecteur Mendes France, parce que si on peut parler en la liberté, c'est la licence, et la licence, c'est le dégoulinage.
L'harnais de contraintes et meurt de liberté.
Merci, ouais. François Guillemin. J'étais sûr qu'il aurait quelque chose d'intelligent et de fort à dire. L'art naît de contraintes et meurt de liberté.
Je ne sais pas de qui c'était.
Bon,
oui, Serge, si vous me permettez, ce n'est pas la première section des renseignements généraux qui s'occupe de la presse, de la radio. C'est cinquième section.
Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir.
La première section, c'est probablement parce qu'il est...
Le conseil régional du Poitou-Charentes, il n'a rien donné.
Non.
Ce sont les gens de la cinquième section qui nous écoutent aujourd'hui.
La prison centrale de Bois-d'Arcy, pourquoi vous ne les remerciez pas?
Non, mais il y a un certain nombre d'amis plus ou moins, enfin, qui sont passés par là ou qui sont encore. Donc c'est pour ça quoi.
Ah bon, vous avez des amis en prison?
Malheureusement, c'est pas forcément ce qu'on croit qui ont des amis en prison, et ça peut arriver à des gens bien.
Moi aussi j'ai des amis en prison. Il vaut mieux, parce que comme on va tous finir par y aller, au moins on sera accueillis par des amis.
C'est vrai.
Il vaut mieux y aller plus tôt, parce que l'année prochaine tout le monde y sera.
Tout le monde y sera. Ça sera complètement commun quoi. Enfin écoutez vraiment. Et l'accueil de la NPE du 7e arrondissement de Paris.
Voilà, il se trouve que le guitariste de l'époque qui était allé juste avant de faire la pochette à la NPE s'était fait mal recevoir, voilà. Donc il a tenu à remercier la...
Les francs-maçons, on se doute pourquoi.
Et non, puis, justement, on s'est dit que un nombre important de personnes allaient se poser des questions pendant des nuits entières sur ce petit élément. Qui en soi n'a aucun sens, quoi.
Bah évidemment, comme d'habitude. Et puis, pour finir, dans les non-remerciements, ce que j'aime beaucoup, il y a Diane, le labrador franchement collant du synthé. Alors, il faut savoir que le synthé, c'est celui qui joue du synthétiseur.
Alors, franchement collant, c'est un doux euphémisme. Bon. C'est carrément collant, l'horreur.
C'est une chaîne insupportable.
Enfin, ceci dit, bon, c'est parti de l'ambiance.
Bien. Alors, les auditeurs réagissent, bien entendu. Je n'aime pas cette musique, mais comme vous êtes de notre famille, je vous pardonne. Voilà, c'est comme ça qu'on les veut. Voilà.
Merci. J'espère que ce n'est pas les Africains dont l'auditeur parle. Hein.
Non. Il faudrait vérifier.
Merci de passer du rock sur Radio Courtoisie, c'est super. Oh, c'est super, les Quel est le nom de ce groupe?
Hélène Deal.
Alors, c'est pas Hélène Deal, donc Hélène de Hélène et les garçons qui deal. Hélène Deal, E-L-E-N-D-I-L. Voilà. En fait, bon, c'est tiré de la mythologie de Tolkien. C'est un héros mythique qui n'apparaît jamais, mais qui est omniprésent. Et donc, voilà, quoi. Ça sonne bien, Hélène Deal, c'est pour ça qu'on l'a pris.
Absent de France pendant 3 semaines, quel plaisir d'entendre des vaillants combattants de la France française dans un pays malheureusement de plus en plus. Alors là, il y a un mot que j'arrive pas à lire. Hein? Non, j'arrive pas à lire.
On le devine.
Je pense que la musique rock qui a pour ingrédient l'abrutissement et l'hystérie collective devrait être bannie de Radio Courtoisie, la radio de l'intelligence.
Alors nous pensons que les jeunes qui écoutent du rock actuellement ont autre chose à se mettre dans les oreilles que le rock justement qu'ils entendent. C'est pour ça que nous faisons autre chose que ce qui se passe à la radio et que ce sont dans les rayons.
L'auditeur qui a passé ce message n'a jamais entendu du rap français.
Que ça, c'est vraiment... Le rap, c'est vachement bon.
C'est vraiment bien plus horrible.
Quoi qu'il y ait un morceau de rap qui passe en ce moment, ils n'ont pas du tout entendu les paroles, ça passe sur toutes les radios. Ouais. Et si un jour, je dis pas ce que c'est, parce que c'est très rigolo d'entendre passer ça, c'est mon fils qui m'a fait remarquer ce truc-là, si un jour ils écoutent les paroles, ils vont s'évanouir d'horreur, les mecs. Alors visiblement, ils ont jamais...
Je sais pas...
Non, on ne dit pas...
Au sujet des boutiques dans la rue.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Mais on n'en dit pas plus. Écoutez, ça, c'est un... je le passerai un jour, quand ils auront épuisé toute leur chance sur les radios de la pensée unique.
Quand les lettres prescription seront écoulées.
Enfin, ceci dit, à propos de la pensée unique sur le rap, certes, c'est une musique horrible enfin, en soi... Mais elle est quand même intéressante parce que c'est une musique idéologique.
C'est plutôt en papier de verre qu'en soi, d'ailleurs.
Ouais, d'accord. Non, mais c'est une musique idéologique et ceux qui la chantent savent très bien ce qu'ils veulent faire passer et ils le font très bien. Donc c'est pour ça que ce serait peut-être pas une trop mauvaise idée qu'un jour on investisse aussi ce créneau.
Vous flattez quand même en parlant d'idéologie.
Oui, enfin. Alors, vous avez gagné ce soir un repas chaud et gratuit chez la Mère Agitée qui invite les chanteurs à venir dîner chez elle ce soir. La Mère Agitée, c'est 21 rue Campagne Première. 75 014 Paris.
Oh, merci.
Merci.
Elle est gentille, la mirage.
Hein? On avait faim.
Ben, c'est bien. Vous emporterez votre synthé, mais pas Diane, le chien collant. Alors, maintenant, comme prévu, si François Guillaumard recherche toujours l'auteur de la citation
oui.
L'art vit de contrainte et meurt de liberté, c'est André Gide. Voilà.
La nature a horreur du Gide.
12 voilà. Points au groupe Hélène Deal. 12 points en groupe Hélène Deal, c'est le maximum à l'Eurovision.
Ah, ça c'est sympa.
Ah oui, comment voit-ce qui passe à l'Eurovision?
Il y a toute votre famille qui téléphone. Merci d'avoir invité Hélène Deal et merci à ce groupe de son invitation que beaucoup de jeunes, de son, pardon, initiative que beaucoup de jeunes attendent.
Ah bah tiens, c'est quelqu'un qui est pas d'accord.
C'est un vrai Français de la France profonde qui n'aime pas mais vous pardonne. 70 ans.
Décidément.
C'est génial, non? C'est génial, les coms. Bon, alors on change de sujet maintenant. Mon père, alors là, mon cher Philibert, vous êtes pris en flagrant délit d'ignorance parce que, voilà, on a de la part de Nicole Maréchal, que j'embrasse d'ailleurs, la partition des Africains, chant de guerre des Africains, parole de Réjade, musique et arrangement de Félix Boyeux, chef de musique de la garnison d'Alger. Boyer, pardon. Et un auditeur nous téléphone en disant mon père était un ami du capitaine Boyer qui a composé le chant des Africains. Tenez, oui. Je vous donne cette partition.
Et je remercie l'auditeur parce que je voulais savoir si les gens connaissaient vraiment le chant des Africains.
Ah, c'était un...
Parce que pour moi, le chant des Africains, c'est plutôt... Enfin, c'était l'indicatif de Radio OAS en Algérie.
Eh oui.
Eh oui.
Alors, donc je vous donne tout ça que la gentille Nicole nous a envoyé. Les messages du 3615 Libre Journal. J'apprécie hautement les interventions ponctuelles de Monsieur Guillaume. Mais, alors écoutez bien François, mais ces textes plus longs, excellents à lire avec les yeux, passent mal à l'antenne. Alors, je le dis comme si c'est le message qui vient. Je crois qu'il y a un problème, c'est que quand vous parlez, vous vous balancez,
ouais.
Et ça chinte. C'est-à-dire qu'on entend bien, puis d'un coup, on n'entend plus, puis ça fait... Et donc, c'est un peu... voilà. Il faut que vous discipliniez votre grand corps. Que pense Hélène Deal de l'annulation du concert de rock identitaire la semaine dernière? On l'a dit.
Le plus grand mal.
Est-ce que le groupe de rock Hélène Deal va-t-il sortir un album? Non, je rigole. C'est pas dit comme ça. C'est dit, est-ce que le groupe de rock Hélène Deal va sortir un album?
Ben, bien sûr.
Voilà.
Absolument.
Eh ben, tiens, on va d'ailleurs écouter la première chanson de cet album.
Ah oui, vous allez entendre l'avant-première absolue, c'était mixé hier, oui. Je crois, ou avant-hier.
Jamais sorti nulle part encore. Ben,
jamais sorti nulle part. Ça sera disponible en CD, sur un CD 12 titres ou 15 titres même. Il fera une heure au besoin, qui sera disponible septembre prochain. Ce morceau s'appelle 20 ans et c'est super. Alors, rien d'autre à en dire. Allez-y.
Oui, la cassette, c'est ça.
Petit problème technique, eh bien...
Non, c'est de ma faute, j'avais donné une mauvaise indication, comme d'habitude. Décidément, là, c'est encore une erreur, c'est l'autre.
C'est la chanson d'avant.
Il faut qu'on remonte. Alors, en attendant, je réponds aux autres questions.
Oh, c'est un plébiscite.
Un auditeur nous dit « Excellente idée d'un dîner amical vendredi ». Mais mettre plus de 150 francs, pour moi, sera difficile. Mais c'est pas plus de 150 francs, c'est juste 150 francs. Pour moi, qui suis chômeur à bac plus 3, marqué même chômeur sans bac, 150 francs, c'est trop. Le cœur y sera cependant, car la soirée risque d'être conviviale. Ce monsieur peut appeler au 45-23-51-01. Et 150 francs, c'est pas possible de faire un dîner pour moins cher. C'est absolument impossible, on a cherché partout, c'est impossible. Un auditeur dit qu'il doit être plus facile de plumer que de tondre un corbeau. Qui a parlé de tondre un corbeau autour de cette table? Forcément quelqu'un a dit ça. Et la réponse à propos du parking est oui, il y a un parking à l'hôtel Novotel. Voilà. Maintenant, on écoute la bonne musique. Enfin.
Bougez pas.
De plus en plus de violence. J'ai peur. Qu'est-ce qu'on va dire?
Plus le chaos règne partout, plus c'est facile de s'enrichir. Contrebande, drogue, tout est possible. On a presque tous démarré là-bas.
On le passe pas en entier, parce qu'après, il n'y aurait plus de raison de l'acheter, quoi, tout simplement, disons les choses clairement. Alors, j'aimerais bien, Aude, que vous nous disiez les paroles, parce que dans le casque de studio, on les entend pas très bien, pas toutes les paroles, mais enfin, ce qui fait que c'est du rock identitaire et que c'est pas du rock soin.
Bon, bah alors, en fait, cette chanson s'appelle 20 ans. C'est une rétrospective depuis 20 ans de tout ce qui s'est passé, enfin, de ce qui s'est passé en France. C'est-à-dire, en gros, un état des lieux, quoi, avec la droite, la gauche qui se succèdent, et c'est pas moi qui le dis, mais bon, c'est toujours le même bordel, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Donc c'est pour ça que c'est identitaire, et c'est pour ça que, bah, c'est pour ça que je pense que tout le monde va aimer, quoi.
Pas tout le monde. Je peux vous dire que les gens de la pensée unique ne vont pas aimer, puisque vous savez que maintenant, le grand débat, c'est de dire que c'est vraiment un scandale, c'est du fascisme, de dire qu'ils sont tous pourris.
Oui, mais alors, le jeune moyen, enfin, les gens en général, quand même, sont d'accord avec nous sur le fond. Hein, et là, le constat qu'on fait, je veux dire, tout le monde est d'accord. Et on n'est pas non plus le haut-parleur d'un parti politique. Hein. Là, notre message à nous, il est sceptique d'être vraiment compris et apprécié par tout le monde.
Alors, une auditrice demande quel commentaire vous feriez sur la claque que nous avons prise sur Eurovision. Moi, je ferai d'abord mon commentaire à moi, c'est que s'il y a une claque, c'est pas moi qui l'ai prise, ouais. Que nous avons pris.
Ce nous est très amusant.
Ce nous me paraît extrêmement globalisateur et généralisant. Moi, quand j'ai vu cette grande dame chauve, car elle était chauve, c'était la cantatrice chauve,
ouais.
La cantatrice est chauve, que je me suis dit, c'est... Non, bah enfin, bon voilà quoi.
Hein.
Et qu'est-ce qu'elle chantait ? Où aller, où aller ? Alors les paroles.
Ça ressemblait à du rap. Hein.
Les paroles de la chanson, c'était où aller, 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 où aller. Et c'était pas une vieille chanson camerounaise. C'était pas où aller, où aller. C'était où aller, c'était une question. Donc moi je pense que combien ça rapporte une.
Aucune idée.
Aucune idée.
À moi, rien.
Bon, à moi non plus.
Ça fait 30 ans que je connais ce mec, ça fait 30 ans qu'il fait des trucs qui ne rapportent rien. Bienvenue au club.
Et dans notre groupe, c'est bien parti pour durer.
En tout cas, il a écrit à peu près 787 fois où aller dans la chanson, et ça lui a rapporté combien ? 3 points. Parce que heureusement, je crois que c'est les Macédoniens qui nous ont. C'est les Macédoniens, c'est ça ?
Oui,
qui nous ont donné 3 points. Je ne savais même pas que les Macédoniens, ça existait, moi. On a eu 3 points par les Macédoniens. Et on a battu les Suisses. Ouais. Ça leur apprendra à être plus riche que nous.
Mais le chanteur suisse n'était pas suisse, si j'ai bien compris.
Ah bon ?
Ou alors c'était.
Ou alors c'était juste un petit Suisse, mais avec du
non,
du
il n'y avait non. Rien de Suisse.
Bon, rien de Suisse.
Revenons à Hélène Dill.
Oui, alors revenons. Alors,
j'exige. Je voudrais ajouter une chose, c'est qu'on n'est pas tout seul. Hélène Dill n'est que un parmi toute une galaxie de groupes qui sont déjà actifs.
Ah non, je croyais que dans le groupe, vous n'étiez pas tout seul, parce que pour faire un bruit pareil, il faut être combien?
4.
On est 4, 5, parfois plus, avec des musiciens à temps partiel. Mais il y a actuellement toute une galaxie de groupes qui s'est formée depuis 2-3 ans. Bon, les premiers, ils sont assez connus, ils sont déjà passés ici, d'ailleurs, je crois. Vae Victis. Il y a plus récemment le groupe In Memoriam qui s'est formé, qui tombe pas mal, qui est très fort, etc. Il y a Île-de-France. Or, bon, on est en train de créer toute une école qui est en train d'apparaître, de se créer, de se remuer. Il y a un label, enfin une maison éditrice de disques, disons, une maison discographique, qui s'appelle Memorial Records. Memorial comme Memorial, et puis Records comme disque.
Entre nous, d'appeler Memorial Records, c'est une...
C'est pas une idée à moi.
Une genre de rock identitaire français, c'est limite. Hein.
C'est une objection que j'ai faite personnellement aussi.
D'ailleurs, dans Libé... Il voit là le signe d'une nouvelle culture générationnelle.
Ouais. Ouais. Art culture.
Et donc, cette maison qui orchestre un petit peu tout ça, tout ce mouvement du rock identitaire français, elle est, on peut toujours noter l'adresse, je crois que c'est intéressant. Stylos sont prêts, allez-y. C'est 23 rue Le Courbe à 75-015 Paris, France.
Répète.
Je répète l'adresse de Memorial Records. 23 rue Le Courbe, 75-015 Paris, en France.
Est-ce que vous avez pris contact ? Est-ce qu'Hélène Dill a pris contact avec McDo ? Parce que McDo, ils soutiennent beaucoup les initiatives musicales.
Peut-être pas les
nôtres. En ce moment, ils distribuent... c'est un auditeur qui nous envoie ça. Ils distribuent un magazine qui s'appelle « Ça se passe comme ça », qui est le magazine de McDo, et donc qui est consacré à NTM, le groupe NTM. Bon. Alors, je voudrais dire à cet auditeur, c'est gentil que vous m'ayez, c'est gentil de m'avoir envoyé ça, cher auditeur, mais ça prouve quand même que vous allez dans les McDo pour avoir eu ça. Alors, c'est bien fait pour vous. Hein. Ça, d'abord, vous allez être malade, un jour ou l'autre, ça finira comme ça. Et puis... parce qu'il ne faut pas manger de viande, c'est pas bon la viande, il faut manger des légumes, vous voyez, des légumes verts. Il faut. Voilà, quand vous allez chez McDo, effectivement, vous avez à côté de vous, sur le journal, en cuisine et au service, la totale. il vaut mieux écouter Hélène Dill. Donc Hélène Dill n'est pas chez McDo, Hélène Dill est à la mer agitée. C'est une autre école.
Oui.
Voilà. Pourquoi un Sacré-Cœur sur la pochette d'un disque Hélène Dill?
Ah, en fait, c'était une initiative, disons, personnelle. Enfin,
non, mais vous excusez pas, il y a un Sacré-Cœur sur le Libre Journal.
Ah non, mais pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le jour où on a fait la pochette, ça s'est un petit peu fait à la va-vite dans l'anarchie. Et en fait, chacun a un peu mis des petites choses comme ça à droite à gauche, tout ce qui nous amusait, tout ce qu'on aimait bien. Et donc, c'est passé avec.
Une petite chose à droite à
gauche. Non, une grande chose.
Une petite chose à droite à gauche, le Sacré-Cœur.
Non, ouais. Non. Il y a des petites et des grandes choses. Mais, enfin, voilà.
Ma pauvre enfant.
Enfin, donc, ça n'a pas fait l'objet d'une décision de.
Ce n'est pas démocratique.
Non, pas du tout.
Hélène Dill, vous nous avez dit pourquoi ça s'appelait comme ça?
Oh oui, enfin, c'est le nom d'un héros de Tolkien. Celui qui a perdu l'anneau, l'anneau magique qui donne le pouvoir sur le monde. Voilà.
Tolkien, c'est grand, hein. C'est pas français, mais c'est grand quand même.
Ah oui, c'est grand.
Seigneur des Anneaux. C'est long. Ouais, bah c'est vrai. Ouais, ça, c'est... bon, alors les questions des auditeurs, oui, toujours à propos de rap. Le rap n'est pas de la musique, mais une vocifération haineuse et monocorde sur fond de bruitage. Et c'est un musicien qui vous le dit.
J'en suis tout à fait d'accord. Musicalement, c'est de la crotte. Ça a un avantage qu'on pourrait éventuellement exploiter, c'est qu'on peut y caser énormément de textes dessus. Alors les textes, naturellement, de Monsieur MC Solar, je ne sais pas prononcer l'alphabet tchadien, alors je dis MC, c'est également de la crotte, mais on peut imaginer qu'éventuellement on pourrait détourner ce moyen à notre profit.
D'ailleurs,
il y en a qui y pensent.
D'ailleurs, il y a une rumeur comme quoi, à la rentrée, sortirait un groupe de rap de chez nous, quoi.
Ah, voilà une bonne nouvelle. Alors, je continue la lecture des messages.
Autant préparer psychologiquement les esprits, c'est plus sûr. Pour éviter la crise cardiaque, comme dirait Doc Gineco. Ou je sais pas qui.
On connaît des choses.
Ah, ça, c'est très amusant. Ça, c'est... Qui est-ce qui m'apporte ça? C'est un auditeur qui dit « Quel est le comble de l'Eurovision ?» C'est « Qui sera elle ?» Qui sera elle ?
Qui sera elle ?
Ah oui. Ah ben merci, Félix, j'avais pas compris. Pouvez-vous nous redire l'auteur qui a dit l'éléphant est irréfutable,
c'est
Alexandre Vialat. Alors à propos de citation, voilà Aude qui nous quitte. Au revoir Aude. On passera la dernière chanson en votre absence. Je vais quand même vous faire un aveu. Pourquoi elle nous quitte? Parce qu'elle a rendez-vous avec son directeur de thèse. Ce qui est quand même assez rigolo parce que comme une chanteuse de rock.
Parler de sa thèse aussi.
Oui, une chanteuse de rock qui s'en va, même identitaire, qui s'en va pour aller rencontrer son directeur de thèse, ça pose tout de suite le personnage.
Ça pose le groupe aussi. Ouais.
Ça pose aussi le groupe. T'as eu un directeur de thèse? Tu es directeur de thèse?
Non, je suis jamais allé jusque là.
Le rap, ça je l'ai dit. Alors à propos de citation, effectivement, un auditeur nous dit, c'est pas du tout Gide qui est l'auteur de la citation dont Monsieur Guillaume vient de faire état, à savoir l'art vit de contraintes et meurt de liberté. Donc nous dit cet auditeur, ça n'est pas Gide, c'est Stendhal. Alors c'est noté, mais un autre auditeur nous dit.
Ça me paraît peu probable dans la mesure où cette phrase est un alexandrin.
Oui, ben en tout cas.
C'est pas Boileau.
Boileau et Narcejac, alors peut-être. Non, alors il y a un autre auditeur qui nous dit c'est ni Gide ni Stendhal, c'est un autre dont je n'ai pas le nom. Je sais plus. Enfin, je le dirai tout à l'heure parce que je vais retrouver le papier. Donc il y a un grand débat. Alors, si quelqu'un a un dictionnaire des citations en état
parce
de marche.
Il n'y a plus de pages rouges maintenant.
Ah, il n'y a plus de pages rouges.
C'est fini.
Alors, sur la musique, c'est pareil. Un auditeur nous dit, mais c'est pas du tout le commandant Boyer qui a composé la musique du chant des Africains. C'est Monsieur Clément, professeur de musique à l'école Clausel d'Alger. Mais il dit, non, c'est peut-être les paroles qu'il a composées.
Non, mais Serge de Beckett, je vous avais dit que personne ne savait vraiment qui avait composé le chant des Africains. C'est que il y a de multiples personnes qui se réclament de cette musique, mais officiellement, militairement, personne n'a été reconnu.
En tout cas, il y a probablement quelqu'un qui l'a composé, ça ne nous est pas tombé du ciel. Que pensez-vous de la techno et de son incidence sur le mental? C'est un psychiatre qui parle. Ben, il faudrait que le docteur François Plantet soit là pour répondre. On en parlera peut-être un jour, effectivement.
La techno est souvent associée à l'usage de certains produits.
Non? Oui, c'est ça, les produits stupéfiants, la musique abrutissante.
Excitant, surtout.
Musique abrutissante et produits stupéfiants.
Oui, Parlons un peu d'un point de vue, disons, technique ou même musicologique. La techno représente un extrême, une exagération opposée au rap. Pour la mesure, il n'y a pas du tout de paroles, il n'y a même plus de mélodie, il n'y a même plus d'harmonie, c'est essentiellement de la pulsation brute. Bon,
c'est une musique élémentaire. C'est fabriqué par
ordinateur. Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est peut-être pour ça que c'est un peu pauvre en inspiration.
Non, mais n'importe qui avec une groovebox, quelques synthétiseurs,
dans quelques
et des générateurs de rythme est capable d'en produire. C'est...
Dans quelques années, on nous fabriquera des groupes rap virtuels, on ne sera même plus obligé de penser que ces gens-là existent.
Bien sûr, bien sûr.
Ce sera bien.
Alors, vous vous réjouissez quand vous rencontrez des gens ouverts, mais pourquoi ne passez-vous pas tous les messages, sauf ceux sur Minitel, parce qu'ils vous rapportent. Ça, je pense bien, si vous savez, c'est formidable.
On peut le rappeler, c'est le 36-15 Libre-Journal.
36-15 Libre-Journal, 2,23 francs la minute. Alors, sur les 2,23 francs, la moitié vont à Télécom, et le reste sert à payer le fonctionnement du système. Donc, monsieur, la superbe voiture que je n'ai pas, n'a pas été payé par le Minitel 3615. Vous voyez, si vraiment je faisais quelque chose pour gagner du fric, je ferais pas une émission à Radio Courtoisie. C'est assez clair. Et je ferais pas de Minitel 3615 Libre Journal. Je ferais un Minitel 3615 Grosse Lulu. Et à mon avis, ça marcherait beaucoup mieux.
Ah, mais il faut quand même des hôtesses. Il faut les payer.
Il y a des moments où quand même on prend un peu. Voilà. Pour la techno, nous dit un auditeur qui s'y connaît, laissez tourner le moteur, c'est tout. Ça, c'est bien vu, ça. Alors, question 3615 Libre Journal, et toc, 2,23 francs pour moi. Enfin, non, le quart de la moitié. Question au groupe Hélène Dill. Comment jugez-vous les groupes étrangers de rock identitaire, comme les Cranberries ou les Stranglers? Je connais pas les Stranglers, mais les Cranberries, c'est formidable.
Les Cranberries, c'est formidable. Les Stranglers, c'était extraordinaire également.
Et connaissez-vous le groupe Screwdriver.
Alors bon, Screwdriver, ce sont les créateurs de ce qu'on appelait le RAC, le rock anticommuniste, dont la lointaine séquelle est ce qu'on appelle aujourd'hui la musique des skins, quoi. Bon, ça vaut ce que ça vaut.
À ne pas confondre avec le RAC, qui est le régiment d'artillerie coloniale.
Alors tiens, puisque vous avez pris la parole, on va faire plaisir à nos auditeurs qui n'aiment pas forcément un autre auditeur qui n'aime pas forcément le rock identitaire, parce qu'autrement, la plupart, je sens bien qu'il y a un...
C'est un plébiscite, hein, c'est un enthousiasme général. C'est un plébiscite. Tout le monde, il est unanime.
Alors, on va écouter un deuxième morceau, peut-être celui qui est inscrit en deuxième sur la liste, mais celui qui est inscrit en troisième. Alors, donc, Philibert, qu'est-ce que c'est, ça?
C'est la marche officielle, donc, de la première armée française, l'armée B du général Delattre, après ses durs combats en Italie, a été refondue en première armée française le 15 septembre 1944, et elle a ensuite débarqué en Provence, avec 5 divisions d'infanterie et 2 divisions blindées, et elle est montée jusqu'en Allemagne, à Berchtesgaden. Et il faut savoir que lors de sa percée, donc, dans le sud de la France, les Américains l'ont freinée, parce qu'elle avait largement dépassé tous ses objectifs. Peut-être parce que justement elle était portée par cette marche, oui.
Quelles sont les références du disque que vous nous proposez?
Alors, les références du disque, c'est un disque que vous pouvez trouver au musée de l'armée, aux Invalides. Il s'appelle Marche et chant des régiments de la Libération, EF 94 107 1 Fortin Productions. Donc il faut aller aux Invalides, à la boutique du musée de l'armée, ou à la FNAC.
Alors, la parole aux auditeurs. J'ai réservé, nous dit une auditrice, 2 places. Pour le dîner du Libre Journal qui aura lieu vendredi 15 à 20h à une adresse qui n'est pas celle qui avait été indiquée précédemment et que vous connaîtrez en téléphonant au 45 23 51 01 ou 02. J'espère que ma petite femme est encore vivante sous l'avalanche des appels téléphoniques. Donc 45 23 51 01. Et cette auditrice dit comme j'offre donc la place vacante à la personne au chômage qui a téléphoné pour dire que 150 francs c'était trop cher. Donc je demande à ce chômeur de se faire connaître au 45 23 51 01 pour bénéficier de cette place. Je demande à ceux qui n'ont pas téléphoné de s'abstenir de le faire pour avoir cette place gratuite. Il n'y aura pas 36 places gratuites pour... on peut pas, quoi. Voilà. Alors... D'autres. Alors, la deuxième. Oui, Hélène dit. La deuxième chanson est bien meilleure que la première. Continuez à vous améliorer. Vous faites du bon boulot. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme il y aura combien de chansons sur le disque final?
Entre 12 et 15.
Ouais, alors, donc, il faut écouter directement la 15e, et là, ça sera prodigieux, non? Et d'ailleurs, vous allez entendre tout à l'heure la 3e.
Oui.
Et vous verrez que, effectivement, c'est encore meilleur que les 2 premières. Les gens méchants diraient que ce n'est pas difficile. Mais. Non, mais c'est vraiment. Merci à tous, dit cette auditrice. Il y a une auditrice qui dit « Avec les bénéfices de votre premier album, si vous en avez, un conseil, payez-vous un batteur et jetez votre boîte à rythme. »
Ah, voici donc un auditeur qui a l'oreille fine.
Triste.
Effectivement, une auditrice qui a l'oreille très fine. Effectivement, nous utilisons une batterie électronique car ça fait gagner du temps.
Non mais il n'y a pas besoin d'avoir l'oreille absolue pour s'en apercevoir, mon cher Jacques. J'ai un 78 tours. Alors ça, on change de sujet, là, carrément. D'un côté, il y avait le chant des Africains, chanté par Bordas. Tiens, je croyais que c'était un dictionnaire. Et de l'autre, le chant des tabors marocains. Vous avez ça?
Ah oui, j'ai je passerai de toute façon à Radio Courtoisie un disque formidable qui a été fait par le 1er régiment de tirailleurs.
Les marocains tabors.
Voilà. Donc, vous aurez donc la nouba du 1er RT. Et vous aurez le chant des Africains en version longue, 8 minutes 23.
Oh, bah on pourra aller se coucher. Et puis, alors, d'après François Guillaume, on aura peut-être un jour le chant des partisans en finnois.
Oui, ça existe en tout cas.
Ça existe.
Mais j'ai entendu, mais je suis pas sûr de pouvoir le retrouver.
On a entendu l'autre jour, grâce à lui, ma petite tonkinoise en finnois. C'est quand même, il n'y a pas une radio au monde qui a passé ça. Enfin, sauf en Finlande. J'encourage les jeunes du groupe Hélène Dill et j'aimerais que d'autres jeunes français aient leur courage. Voilà. Ça c'est très drôle, à propos du groupe NTM, on a beaucoup parlé ces jours-ci du Titanic ta mère bien entendu, en fait une bonne nouvelle, c'est plutôt la mère qui a niqué le Titanic. C'est joli, non? Il n'aurait plus au groupe NTM qu'à s'immerger sans fanfare. Ça c'est un auditeur, je dis ça. Bravo, ça c'est bien. Est-ce que votre disque compact se trouve à Duquesne Diffusion? J'ai des doutes.
Bonne question, je pense pas.
Je pense à la tête de Jean-Hugui, si vous arrivez...
Je ne pense pas, mais autant le dire, il se fait que nous avons de bonnes relations, vous en doutez, vu nos choix politiques et doctrinaux, que nous avons de bonnes relations avec certaines organisations politiques que la plupart d'entre nous connaissent d'assez près. Il importe de dire que nous serons présents à une prochaine fête bleue, blanche et rouge. Je crois que tout le monde voit ce que je veux dire.
Et vous étiez déjà.
Et à propos, je signale également qu'une maison de disques honorablement connue qui s'appelle la Serpe s'apprête également à sortir des choses très intéressantes dans la veine du rock identitaire français.
Oui, j'ai cru comprendre qu'ils aménageaient une boutique un peu plus étoffée.
Aussi.
Ah, ils ont mis un toit sur leur boutique en fait.
J'aime bien
le à la Serpe, oui, c'est vrai. Ouais. Une auditrice qui, non pas à vous, mais proclame ses 92 printemps, nous dit « Je viens de couper Radio Courtoisie car je préfère entendre le merle dans ma cour plutôt que de la musique moderne. »
Mais s'il y a la merle dans sa cour, tout le monde n'a pas la merle dans sa cour.
Je préfère entendre un merle que...
Quel dommage pour Rhin et Danube, la marche officielle de l'armée française.
Bah oui, il aurait pu entendre, c'est au moins aussi joli qu'un merle. On chante les Africains dans la 3e compagnie de formation de gendarmerie, nous dit un auditeur.
Ce qui prouve qu'il y a sûrement des Africains aussi chez les gendarmes.
La musique est excellente, ils ne font que s'améliorer, qu'ils continuent. Signé Sylvain. Comment c'est le frère de d'Aude, non?
Non. Aude n'a pas de frère.
Ah bon. Alors, pour une meilleure compréhension des textes, il y aurait avantage à baisser légèrement le niveau de l'accompagnement musical qui, par moment, a tendance à manger les paroles.
C'est une remarque que j'avais faite. Ça, ouais.
Un commentaire, monsieur Marchal.
Eh bien, c'est un peu une règle du genre. Le rock, c'est comme l'opéra, faut avoir le livret en main.
Bon. Alors d'ailleurs, les disques sont accompagnés d'un livret avec les paroles. Bravo pour cette voix fraîche de rocker sur Radio Courtoisie, ça fait du bien. Le magazine... Micro... Oui, non, ça c'est... Oui, c'est encore un magazine qui fait le...
C'est publicité.
qui fait la pub pour le groupe dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est pas mal. La phrase complète est là, harnais de contrainte, vie de lutte et meurt de liberté. Mais de qui c'est? Voilà, c'est ça le problème. Il a existé un groupe nationaliste précurseur de la techno dans les années 70. Ce groupe s'appelait Kraftwerk. Absolument, tu te souviens de ça?
Complètement.
Hein, on était...
J'étais enthousiaste, et je le suis encore.
Ben, bien sûr. Et puis il y avait aussi, comment s'appelle ce groupe qui a un nom bizarroïde, qui chante des chansons formidables.
Il y en a tant.
Non, ça me reviendra.
Tu parles de Laibach?
Voilà, Laibach. Ah. Voilà. Et Pierre Clavier, d'Elendil.
Pierre Clavier, oui.
Oui.
Bien sûr, nous le connaissons tous.
Propose de tenter une reprise du chant des Africains en rock identitaire. Je ne garantis pas le résultat, dit-il. C'est-à-dire que moi, je ne garantis pas la réaction des auditeurs. Monsieur l'abbé, bonsoir. Alors, monsieur l'abbé, asseyez-vous, parce que je pense pas que vous puissiez rester longtemps debout avec ce qu'on va vous faire entendre maintenant. Donc ça, c'était pour prouver qu'on peut aussi dormir en écoutant du rock identitaire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'abbé?
Moi, je trouve que c'est très harmonieux et très mélodique. Et puis, oui, c'est assez joli. Oui,
voilà. Absolument. Bon, vous avez la bénédiction de la fraternité.
Un divin hasard, une providence, on peut dire, a voulu que monsieur l'abbé Laguérie arrive au moment où passait une chanson de l'Endil relativement beaucoup plus douce que les autres, chantée en latin, qui plus est. Alors, je voudrais en dire un petit mot. Il s'appelle Dona Eis Requiem.
Ça, on avait compris.
Tout ce qu'on dit dedans. Si, il y a
le parolier s'est pas foulé non plus, d'accord?
Oui, Aude n'est plus là pour te mettre une gifle. c'est une chanson qui a été faite. Bon, vous savez, souvent, les groupes de rock identitaire qui existent déjà font des tas de chansons dédiées à tel militant mm-hmm. qui est mort en action ou à tel et tel ami. Là, on a fait une sorte de tir groupé. C'est pour tous ceux qu'on aimait et qui nous manquent. Voilà.
Ben, c'est une jolie chose. Merci Jacques. Alors, on a donné l'adresse, on a donné tous les renseignements possibles et imaginables. Si vous voulez, si vous vous intéressez au groupe LND,
je rappelle, pour en savoir plus, voilà. Memorial Records, Memorial Disc, disons, hein, 23 rue Le Courbe, 75015 Paris.
Merci Jacques.
Et rendez-vous en septembre pour une grande fête dans l'Est de Paris.
À quand une réédition des Rats Noirs?
Ça c'est une question personnelle, c'est une attaque très basse qui vient de haut à laquelle je ne répondrai pas.
Ah, ça nous a fait tellement rire. Monsieur l'abbé, je dirais pas que vous nous avez fait rire aussi, mais si quand même vous nous avez fait rire, parce qu'il y a des pages de votre livre qui sont plus que drôles.
Un peu croustillantes,
quelquefois. Qui sont fois. Même parfois un peu vachardes.
Un peu acide, il y a de tout, il y a de tout, pour ça je suis très éclectique, c'est vrai qu'il y a, les vérités les plus difficiles à faire passer, demandent pas mal de confiture et même un peu d'humour, il faut pas se laisser aller non plus, c'est un équilibre, je prétends pas l'avoir toujours gardé, vous savez.
Alors, il y a maintenant combien de temps qu'il est paru?
Ça fait sept mois qu'il est paru, aux éditions, donc, certitude là, et c'est vrai qu'il en est parti pas loin de 3000 maintenant, donc
ça
va pas mal.
C'est un best-seller. Il faut dire que vous avez du piston.
Du piston d'en haut, oui. Oui, c'est sûr. Oui.
Et il s'appelle donc Avec ma bénédiction.
Avec ma bénédiction.
C'est ça. Et c'est un recueil de tous les éditos du Chardonnay.
Voilà, pendant près de 12 ans, parce que j'ai lancé le Chardonnay en 85, donc j'étais là déjà à la tête de la paroisse depuis 83. Donc, oui, 12 ans, 12 ans.
Et vous allez le signer?
Je vais le signer samedi prochain à la librairie du Ken.
Du Ken, c'est donc 27 boulevard du... Avenue du Ken.
Avenue du Ken, 27 avenue du Ken. Samedi prochain, donc, à partir de 15h, parce que j'ai un baptême à 14h, voilà.
Alors, j'aurais voulu vous recevoir beaucoup plus longuement, mais vous avez été pris en otage par la CGT.
Par la CGT, et encore, le Capitole fonctionnait, mais alors vous imaginez le monde dans le train, les odeurs, comme disait quelqu'un d'autre.
Je ne vous parle pas des odeurs.
Je ne vous parlerai pas des odeurs. Enfin bref, mais j'ai fini par arriver quand même.
Mais donc les auditeurs qui voudraient vous rencontrer pourront aller vous rencontrer à Duquesne Diffusion, 27 à Duquesne. À partir de quelle heure, 14h?
15h plutôt, 15h plutôt, oui. Et j'aurai la joie de leur dédicacer mon livre.
Je voudrais bien vous forcer à nous dire comment vous avez traversé cette année de est-ce qu'on peut dire de cette année sabbatique?
Alors on appelait ça une année sabbatique, moi j'ai plutôt appelé ça une année sympathique. Et écoutez, je suis en forme, je suis un peu bronzé même par l'air de la campagne. Et ma foi, je conseille aux confrères d'en faire autant de temps en temps, parce que ça fait beaucoup de bien de pouvoir se ressourcer et de pouvoir un peu déconnecter d'un rythme de Saint-Nicolas qui quand même est particulièrement agressif de tous côtés, hein, entre le téléphone et les appels à tous les moments et les offices et certaines créatures que Dieu a faites pour la sanctification du clergé aussi, tout cela s'additionnant fait que on a besoin de temps en temps de décompresser. Alors j'attends ma feuille de route maintenant, je ne sais pas où je vais atterrir, figurez-vous. Et ça se discute.
Vous n'avez pas d'affectation?
Pas encore.
Vous n'avez pas de commandement?
J'ai pas de commandement. Pas d'ordre.
Donc, est-ce que vous consacrez vos journées, enfin en dehors de votre activité sacerdotale quand même, est-ce que vous consacrez vos journées à préparer une suite?
J'ai quelques contacts, certainement, à droite, à gauche, et je suis en relation, pas mal, oui, c'est vrai. Mais mes journées ont quand même été occupées à enseigner la philosophie, ce qui occupe pas mal un homme, surtout quand on n'a pas fait depuis 15 ans.
Donc je me suis remis à lire un petit peu plus.
Que la médecine.
Ça ne change pas aussi vite que la médecine. Encore que, encore que quand on lit les philosophes les plus récents, on est un petit peu effaré justement de l'absence de philosophie. C'est-à-dire, ça n'est plus qu'une petite sociologie bon marché. C'est les gens qui décrivent la société sans avoir une seule remarque à formuler, confessent avec une certaine objectivité. Ça dérive dans le comment dirais-je, l'hédonisme, le narcissisme le plus étroit, le plus égoïste, le plus borné, mais ça ne leur fait rien et ils n'ont d'ailleurs rien à proposer là contre.
Bon. C'est de la psychologie sociale sans,
voilà.
sans l'analyse de données.
Sans l'analyse, sans aucune réflexion proprement philosophique. La philosophie, c'est quand même de chercher les causes de tout ça et éventuellement, peut-être, c'est déjà demandé beaucoup à un philosophe, de porter un jugement et peut-être même de proposer des solutions. Ceci ne les concerne pas, semble-t-il. Voilà, les Prigogine, les...
Vous enseignez à des jeunes gens?
À des jeunes gens de terminale, avec un programme faramineux, mais qui est entièrement, j'allais dire, bâti sur le modèle des valeurs existentielles, personnalistes, et il est bien difficile de faire passer de la métaphysique et de la philosophie là-dedans.
Il y a des auteurs à la mode?
Pour les auteurs, c'est assez classique, c'est les vieux Kant, Descartes et compagnie, et Platon aussi, bien sûr. Mais c'est dommage, on pourrait très bien aller chercher dans les auteurs plus modernes, je pense que ce serait aussi intéressant, mais enfin, c'est comme ça, on choisit
comment,
pas les...
Comment sont vos élèves? Comment réagissent-ils? Alors
c'est une bonne question, parce
générale.
Que j'ai fait ce métier, si je puis dire, il y a 15 ans, et je peux essayer de... Brusquement, je compare ces élèves d'il y a 15 ans à ceux de maintenant. Je dirais ceci. Ceux que j'ai en ce moment sont plus branchés, plus modernes, plus ouverts, très, très sympathiques. Je tiens à leur dire, si quelques-uns m'écoutent, d'ailleurs. Cependant, je note une grande différence, c'est que... Très combatifs aussi, prêts à faire de grandes choses. Mais le lien entre les questions philosophiques... littéraire, la pensée et ce qui se passe sous nos yeux, ceci leur échappe.
Ça s'apprend.
Alors on est là pour le faire, mais on n'a pas l'impression, quand on étudie Rousseau, quand on étudie Kant, quand on étudie Nietzsche et les autres, qu'ils voient ce que ça donne. Ce que ça donne dans la pratique, en particulier Rousseau, qui est quand même le maître à penser de nos états modernes, en particulier Kant, qui est avec son...
Ils sont là pour passer leur bac.
Ils sont là pour passer leur bac et il est vrai qu'on n'a pas tellement le temps de faire de philo en terminale. Bon, c'est regrettable, c'est comme ça, c'est un choix. Mais c'est vrai que là, il y a une espèce de fossé entre la vie intellectuelle et ce qu'on a sous les yeux. Et il est très difficile de le combler, très difficile. Ce qui donnera à des gens prêts à faire beaucoup de choses, mais les feront-ils avec profondeur, avec une perspicacité, ça, je ne sais pas encore.
Ils ne sauront pas forcément pourquoi.
Pas forcément.
Est-ce qu'ils sont... quelle est leur attitude en face de la société, du quotidien? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils sont angoissés? Est-ce qu'ils sont gourmands d'avenir?
Ils sont gourmands d'avenir. Ça, il faut leur laisser cette qualité. Et ils sont prêts à se battre sur tous les fronts, sans jeu de mots. Et ils sont prêts à s'investir. Maintenant, est-ce qu'ils en ont les moyens, quoi? C'est un peu l'homme de l'évangile qui voit venir 120 000 soldats. Il n'en a que 40 ou 20, je ne sais plus. Il faudrait peut-être qu'il s'assoie un peu pour savoir comment il va procéder. Bon, reste qu'ils sont prêts à en découdre. Ça, il n'y a pas de doute. Mais je ne sais pas s'ils ont... Bon, c'est des élèves de 16-17 ans. On n'a pas encore une formation très, très élaborée. Mais ils ne se rendent pas toujours compte que cette société n'est pas seulement le fruit d'un hasard, mais d'une longue maturation intellectuelle qui a quand même 2 siècles. Et ça, il faudrait qu'ils le soupèsent avant de se jeter à corps perdu dans la bataille.
Et vous êtes content de cette expérience? Parce que vous n'aviez pas enseigné depuis, vous n'avez dit
tout à l'heure. Pas enseigné depuis 15 ans. Je suis très content. Ça m'a permis, moi-même, de me remettre un peu dans la philosophie. Parce que vous savez, je pense que pour faire un bon professeur de philosophie, il faut 15-20 ans d'enseignement et de travail acharné et à ne faire que cela. Alors par définition, un prêtre n'a pas que cela à faire.
Il travaille le dimanche, le prêtre.
Il travaille que le dimanche, c'est ça. Et encore, il invite tout le monde pour que ça se voit. C'est connu. Mais donc j'ai pas l'impression d'être
au top du professeur de philosophie, très loin s'en faut. Reste que pour moi, ça m'a permis de me replonger là-dedans et de lire même des auteurs modernes que je n'avais jamais découverts, avec beaucoup de curiosité, et pour moi j'en ai profité. Maintenant, eux, j'allais dire, c'est à eux de leur demander, évidemment.
Et par rapport à vos élèves d'il y a 15 ans, quelle différence ?
Eh bien, celle-ci, que j'ai dite tout à l'heure, un manque de synthèse dans leur tête entre les problèmes d'ordre intellectuel et la société telle qu'on peut la décrire.
Sensiblement, les élèves qui étaient en philo, donc ils avaient 16, 17, 18 ans, en 1983, et qui donc aujourd'hui ont, si je sais encore compter, une trentaine d'années,
voilà,
étaient plus adroits à synthétiser, ou plutôt plus adroits à intégrer leur
apprentissage. Un embryon de synthèse. Bon, un homme ne fait pas sa synthèse intellectuelle avant 25 ans, 30 ans.
Et encore, s'il est précoce.
S'il est précoce.
J'attends, il paraît que c'est pour l'année prochaine.
C'est pour l'année prochaine. Alors on reviendra, on va absolument voir ça, ça va.
Ça va être
très intéressant. Non, je dis synthèse intellectuelle, oui, c'est un petit peu prétentieux, si vous voulez, à 25 ans. Mais tout de même, les questions métaphysiques, Saint Thomas leur dit 40 ans avant de s'en faire une notion à peu près exacte. Bon. Mais tout de même, on peut pas demander à des garçons de 17, 18 ans d'avoir synthétisé quoi que ce soit. Ça, c'est parfaitement exact. Alors, mais je pense qu'à cet égard, il y a 15 ans.
Sauf la musique, comme on a pu entendre tout à l'heure.
Mais à cet égard, je crois qu'il y a une perte en ligne. Arriver à faire la synthèse de la pensée en philosophie grecque, moyenâgeuse, la révolution de la Renaissance intellectuelle, le XVIIIe siècle, etc. C'était encore possible, semble-t-il, à des intelligences d'il y a 15-20 ans. Là, j'ai du mal à percevoir ça. Vraiment.
Et pourtant, ce sont des enfants de milieux préparés. Enfin, je veux dire, c'est pas des... C'est
absolument, pas... ils ont généralement d'excellentes familles, mais j'ai l'impression, enfin ça, si je puis inviter les familles à discuter en famille. Moi, je dois une grande partie de mes connaissances à ces discussions qu'on fait autour d'une table, et je ne me souviens pas de discussions à table, il faut dire qu'on était 7 enfants et assez turbulents dans l'ensemble, mais enfin, je ne me souviens pas de discussions qu'il ait été un peu enflammé, même on n'était pas d'accord, on se mettait dessus, mais ça apprend beaucoup de choses, qu'est-ce que vous voulez. Quand vous avez en face de vous un adversaire ou un ami mais qui n'est pas du tout d'accord, ou un grand frère qui vous en remonte, qu'est-ce que vous voulez, vous devez affiner votre jugement, vous devez affiner vos arguments, vous devez vous engager, et ça c'est pas des mots. Là j'ai l'impression que pour un bon nombre d'entre eux, ils sont un peu dans un cocon, et puis les problèmes c'est pour plus tard, voilà.
Mais quand vous entendez ou surprenez des conversations entre des jeunes gens aujourd'hui, ça porte sur quoi? Est-ce que justement, ça est-ce qu'ils ont porte. Des... Je me souviens quand j'avais 15-16 ans, on parlait de politique à longueur de journée.
Voilà, ben vous dites la même chose que j'essaye de dire, c'est-à-dire que maintenant, s'ils se rencontrent, bon, peut-être on va parler légèrement politique, mais peu, très peu, ça va être le football, ça va être la musique, ça va être le l'euro et comment on va faire. Enfin, c'est extrêmement concret, et j'ai rarement surpris, moi, comme je le faisais dans la cour de récréation il y a 15 ans, deux élèves en train de parler de politique ou de philosophie ou de littérature. C'est vrai. Là, il y a une perte en ligne, un manque d'intérêt.
Mais est-ce que vous connaissez leurs parents? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'eux-mêmes soient capables de les inviter à des discussions de ce genre?
Alors là, je ne connais pas les parents un par un, c'est bien difficile. J'imagine quand même que ils ont quand même une certaine préoccupation intellectuelle, ces parents, puisqu'ils ont fait des choix et qui manifestement leur coûtent parfois très cher au point de vue financier. Donc certainement, c'est des parents qui ne sont pas indifférents à la controverse intellectuelle et au combat que nous pouvons mener. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le bouillon de culture en famille. C'est parce que ça se sent tout de suite. Tant qu'on n'a pas d'adversité, j'allais dire, on a beau dire et beau faire, c'est l'adversité d'ordre intellectuel dont on parle ici, mais qui aiguise.
Elle est quand même présente.
Elle est présente, mais elle est présente dans ce monde sous forme d'agression, sous forme de violence, sous forme d'informatisation générale, mais pas sous forme intellectuelle. Quand on est dans un internat et qu'on a 17-18 ans... moi, j'étais dans un lycée, si vous voulez, et alors là, on était obligé de se défendre intellectuellement, sous peine de disparaître. C'était en plus il y a 30 ans, donc en 68, il fallait choisir. Hein.
Merci, monsieur l'abbé. Donc, on vous retrouve samedi après-midi à partir de 15h chez Duquesne Diffusion.
D'accord. Puis... Je voudrais simplement mentionner également une grande journée qui est le dimanche 21 juin à la Mutualité, organisée par l'association 496. Elle a déjà été mentionnée sur ces ondes, mais enfin... ce jour-là, on fera un bilan de la situation de l'Église en général. Et de façon très ouverte, tout le monde y est convié, il y aura beaucoup de débats. Les objectifs, c'est de redire notre fierté, si vous voulez, mais de manifester par des débats la position que nous avons vis-à-vis de ce 10e anniversaire des sacres de Mgr Lefebvre en 88, qui a quand même été un choc pour un bon nombre d'entre nous. Alors, il y a quand même déjà 25 000 pratiques pré-tractes qui sont partis, il y aura 30 000 tracts définitifs, il sort ces jours-ci, un fichier de 10 000 personnes touchées par mailing, et donc je vous invite, renseignez-vous, il y a des tracts, on peut les trouver, à cette grande journée du 21 juin 1998, il y aura 50 auteurs qui dédicaceront, plus d'une trentaine de stands prévus, et une grand-messe à Saint-Nicolas à 18h30 pour clôturer cette journée. Donc je ne vous raconte pas tout le programme, mais je pense que vous ne serez pas déçus quand vous l'aurez entre les mains.
Il sera d'ailleurs sur le Minitel du Libre Journal, 3615 Libre Journal.
Ah, formidable, voilà. Formidable. Voilà, donc je vous y invite, et puis en attendant, je vous retrouve samedi prochain, si vous voulez bien, à la librairie Duquesne.
Merci, monsieur l'abbé. Alors, merci, monsieur l'abbé Laguéry, de sa présence place de l'Opéra. Monsieur l'abbé Laguéry, si vous pouviez être appelé dans une petite chapelle près de Sarlat, à la frontière espagnole, ça serait impeccable. Il y a Limoges aussi, qui est pas mal.
Il y a Limoges. Hein,
à l'audition de... Alors, je lis en vitesse les messages. À l'audition de l'hymne de l'armée du général de Lattre, on comprend pourquoi les Allemands ont été battus. Je croyais que le gendarme secrète était prohibé par la Convention de Genève. Bordas était une chanteuse réaliste comme Fréhel. L'armée d'Afrique a commencé par débarquer en Italie et non en province. J'en sais quelque chose, mon père en faisait partie et a été combattant dans les Abruzzes. Un des membres de la formation du capitaine Boyer confirme que la musique du chant des Africains est bien du capitaine Boyer. Quand aura lieu l'émission sur les ovnis? La semaine prochaine. Compliments pour votre émission, grand bravo à Hélène Dill, bon courage. Pourriez-vous donner les références de l'article sur l'esclavage dont vous venez de parler? Alors, c'est dans le prochain numéro du Libre Journal. Si vous voulez le recevoir, vous envoyez combien? 30 francs en timbre à 3 francs, 4 places France Litz, 75 010, Paris. Je signale alors les annonces que Farid Smaï, conseiller régional FN, donne une conférence ce soir à 20h30 à Mantes-la-Jolie dans la salle de l'Agora. Que en ce moment même, une manifestation de soutien pour les harkis a lieu aux Invalides près de la gare. Que le Cercle national des retraités organise jeudi 14 mai à 12h un déjeuner-conférence sur le thème Paris insolite. Des renseignements au 01 41 12 10 56. Que une messe aura lieu le 26 mai prochain à 18h30 en souvenir de Marc Dem à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, 26 mai, 18h30. Qu'est-ce que je dois encore signaler? Ah ben oui, que vendredi 15 mai, le Café Métaphysique se réunit à 20h au premier étage du Café de Cluny sur le thème « Vers l'ésotérisme chrétien » avec Henri Bonnier et Arnaud Guyot-Janin. Et puis que le Parti des Gaulois organise une balade, visite de dolmens et menhirs à l'ouest de Paris. Ne dîneriez pas, c'est sérieux. Dimanche 17 mai 98, rendez-vous à 11h à la sortie de la gare de Cergy-Saint-Christophe RER, marche de 12 km, ça c'est effectivement pour les Gaulois, environ, retour par Moulin, Saint-Lazare, chaussures, casse-croûte, ciré plus photo, plus esprit gaulois. Renseignements 01 42 26 24 82. J'ai encore un peu de temps? Non, c'est fini. Alors, à tout de suite.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie.
Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, dirigé successivement par Serge de Beketch et par Daniel Amich, assisté de Marie. Document d'archives du 13 mai 1998, rediffusé dimanche 5 octobre 2014 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Alors vite, je rappelle les coordonnées de l'association 496, c'est 51 boulevard Garibaldi, 75 015, Paris. Le téléphone 01 43 29 70 42 ou 01 53 69 00 10. Pour la journée du 21 juin. Et puis je signale très rapidement que je rappelle l'adresse du CIRIS. Vous savez, le CIRIS, c'est l'association qui soutient les travaux du professeur Beljanski. Et j'ai beaucoup de demandes, alors donc je la rappelle. Le CIRIS, c'est 17 chemin Saint-James à Dolus-d'Oléron, dans le 17. Si vous voulez recevoir leur journal qui s'appelle Dialogue, vous envoyez 4 timbres à 3 francs dans une enveloppe avec votre adresse. Parce que le drame, c'est que plusieurs auditeurs ont envoyé des timbres sans mettre d'adresse, et donc ils vont penser que c'est une escroquerie, mais c'est de leur faute. Je signale que le CIRIS vient de publier une brochure fort intéressante sur l'affaire Beljanski, qui a été écrite par Madame Beljanski elle-même et avec l'aide d'une journaliste scientifique. C'est-à-dire, c'est un très très bon travail de vulgarisation. Et ça, vous pouvez vous procurer cette brochure, qui est un petit livre, pour 140 francs, à la même adresse, 17 chemin Saint-James, Dolus-d'Oléron. Le café philosophique, demande une auditrice, c'est le café de Cluny à Paris. C'est boulevard Saint-Germain, le café Cluny, c'est ça? Oui, sans doute. Voilà.
Pas loin.
Mon cher François Guillaume, quand j'aurais dit que les auditeurs qui veulent participer au dîner de vendredi peuvent téléphoner, le dîner du Libre Journal vendredi 15 à Paris, à 20h, peuvent téléphoner au 45 23 51 01 ou 02 pour s'inscrire, confirmer leur inscription et avoir l'adresse, je vous donnerai la parole pour que vous nous expliquiez en quoi vous avez le droit de fustiger l'incapacité intellectuelle et la mauvaise foi du démocrate social.
Oui, parce que la dernière fois, j'avais employé la contradiction pratique pour relever un certain nombre d'inconséquences chez des pseudo-conservateurs. Cette fois-ci, je voudrais employer ce moyen de preuve contre cette engeance redoutable, et peut-être les pires ennemis de la liberté, des démocrates sociaux qui se prennent pour des libéraux. Et ça va permettre d'établir que non seulement leur subjectivisme, leur relativisme moral sont tout aussi absurdes que n'importe quel autre énoncé socialiste, mais que même les contredisent chaque fois qu'ils prétendent les justifier. En somme, qu'un démocrate social n'est pas un rationaliste, mais au contraire quelqu'un qui ne sait pas ou qui ne veut pas penser. Alors que tous les auditeurs n'ont pas entendu la dernière fois, donc je vais rappeler ce que c'est que la contradiction pratique comme moyen de preuve. Toute action implique certaines affirmations tacites, et parler est une manière d'agir. Si on dit quelque chose que cet acte contredit implicitement, la réfutation est immédiate. C'est un irremplaçable instrument de preuve pour le raisonnement. Nous avons vu que certaines de ces contradictions pratiques sont automatiques. Par exemple, vous ne pouvez pas nier que vous êtes propriétaire de vous-même sans agir comme si justement vous l'étiez. Il y a donc des choses qu'on est obligé de tenir pour vraies pour que ce qu'on dit ait un sens, qu'on appelle les présupposés logiques de l'argumentation qui ont été explorées par des philosophes allemands contemporains. Et ces présupposés logiques de l'argumentation sont impliqués par tout discours rationnel parce qu'on ne peut pas argumenter sans que l'acte d'argumenter les suppose effectivement vrais. Alors nous allons nous en servir pour tordre le cou à un vilain canard, celui de la prétendue neutralité face aux valeurs que Max Weber exigeait du savant. Et voir au passage quelles conséquences inattendues en découlent pour le prétendu rationalisme des socialistes. Le sociologue allemand, Max Weber, démocrate social qui se prenait pour un libéral, prétendait que seuls les énoncés de faits, du genre ceci est vrai, ceci est faux relevait de la science, alors que les normes ou jugements de valeur du genre ceci est bien ou ceci est mal ne peuvent pas être établies par la connaissance rationnelle et traduisaient donc la seule subjectivité. Or, que le savant interdise à ses préférences de lui dicter ses conclusions, ou distingue les simples faits des jugements de valeur pour adapter sa méthode à l'objet de son étude, cela n'implique-t-il pas déjà un choix moral déterminé, celui de servir la vérité? En outre, les jugements de valeur ne sont que des propositions de fait d'un type particulier, parce qu'on peut toujours traduire l'énoncé « ceci est bien, ceci est mal » par « il est vrai que ceci est bien ou mal ». La question ne peut donc pas être de savoir si les jugements de valeur peuvent être vrais ou faux, ils doivent l'être, ne serait-ce que parce que l'action en implique, laquelle est toujours plus ou moins adaptée au réel. On peut donc au moins les soumettre à un test de cohérence qui permettra d'être assuré que certains sont faux. Application immédiate. Max Weber prônait une norme tout en recommandant la neutralité en matière de normes. Il commettait donc à l'évidence une contradiction pratique, car si le discours sur les valeurs ne peut pas être rationnel, que vaut l'aune de la prescription weberienne? Cette contradiction achevée devient visible partout lorsque les adeptes de la neutralité exigent du savant, conformément à son état, mais contrairement à cette neutralité même, qu'il prenne les moyens de dire la vérité et notamment qu'il soit honnête et respecte les règles de la logique. Je vais donc rappeler les règles morales logiquement impliquées par toute science. La recherche de la vérité n'est pas seulement directement déduite de sa définition comme connaissance correcte, c'est aussi une norme humaine axiomatique, car quiconque, et pas seulement un savant, affirme quelque chose, prétend implicitement avoir pris les moyens de dire la vérité. S'il ne le fait pas, que ce soit d'ignorance qu'il est coupable ou de mensonge, c'est un nouvel exemple de contradiction pratique qui le disqualifie. L'obligation de cohérence logique, s'interdire toute contradiction, est elle aussi une règle morale axiomatique. En effet, personne ne pourrait tenter de réfuter la logique sans l'employer, c'est-à-dire sans la supposer vraie. Or, si on est obligé de se servir d'une proposition au cours de toute tentative pour la réfuter, cela en fait un axiome. Nous avons déjà vu ça chez Rothbard. Ce n'en est pas moins le principe auquel les gens refusent le plus de se soumettre en matière politique. Jusqu'à présent, nous étions encore en terrain inconnu, mais voilà, il se trouve que ces présupposés mêmes de l'argumentation rationnelle incluent aussi une théorie politique déterminée, une définition rationnelle et irréfutable de la justice. En effet, toute preuve passe par une argumentation. Or, quiconque participe à une argumentation rationnelle s'abstient d'agresser et de menacer quiconque. Il reconnaît donc implicitement une norme politique, celle de la non-agression. Ce principe est celui que nous avions vu la dernière fois. En faisant remarquer que quiconque argumente traite son propre corps et celui d'autrui comme si chacun en était propriétaire. C'est le même que celui de la propriété naturelle et s'énonce ainsi, c'est un rappel, on a le droit de faire ce qu'on veut avec ce qu'on n'a pas volé, c'est-à-dire pris à un autre sans son consentement. Il est donc impossible d'argumenter rationnellement sans reconnaître ce principe de propriété naturelle. Mais alors, nous sommes bien, bel et bien dans un cas que nous connaissions déjà et que nous venons de revoir, celui qui définit un axiome. Cet axiome, associé à celui de la cohérence logique, établit qu'on ne pourra jamais justifier aucune définition de la justice qui contredise la propriété naturelle. Par conséquent, Max Weber avait bien plus tort qu'on ne croyait au départ. La science ne peut se passer de valeur non seulement pour exister, non seulement pour avoir un sens, mais parmi ces normes mêmes figure un parti pris politique unique et absolu, la définition traditionnelle de la justice comme principe de non-agression. C'est là que nous allons voir à quel point les socialistes n'aiment pas la logique, car la propriété naturelle est un principe universellement applicable et exclusif de tout autre. Dès qu'on l'a une fois reconnu, on ne peut plus jamais le méconnaître sans se contredire. Or, aucun des projets socialistes, pas plus la justice sociale, que leurs prétendus droits sociaux ne prévoient autre chose que de bafouer cette propriété naturelle. Bien sûr, ça n'empêchera jamais les socialistes de continuer, et ils continueront effectivement à défendre ces normes d'agression. Mais cela ne change rien au fait qu'elles ne pourront jamais être justifiées. Toute argumentation en faveur du socialisme est nécessairement absurde, et le comprendre est à la portée de tout homme honnête et sensé. Alors, mise en œuvre du refus de la logique chez le socialiste. Quand il participe à une discussion, l'homme de l'État socialiste fait mine de vous traiter en civilisé. Il ne vous frappe pas, il ne vous menace pas. En somme, il se conforme au principe de non-agression. En revanche, une fois parti, il ne se gênera pas avec ses complices pour vous menacer de violence afin de vous voler. Or, il ne pouvait pas ignorer qu'il vous traiterait en esclave. C'est ce qu'implique son statut d'homme de l'État socialiste. En somme, l'homme de l'État socialiste est un criminel hypocrite du genre « cause toujours mon lapin, mais c'est moi et mes copains qui avons le revolver et on saura bien s'en servir contre toi au moment voulu, mais avec des airs supérieurs que ne prend pas toujours le truand ordinaire. » Ou alors, l'homme de l'État socialiste est un criminel incohérent que frappe un dédoublement de la personnalité normale dans ses rapports avec les proches, criminel en tant qu'homme de l'État. Cependant, cette incohérence ne peut demeurer que là où elle n'est pas trop fortement perçue, ne serait-ce que parce que l'injustice ne supporte pas la vérité. Que venons-nous de prouver d'autre? Donc, plus les hommes de l'État démocrate social volent et assassinent, et Dieu sait qu'ils le font toujours davantage, et moins ils peuvent tolérer ceux qui, au nom de la justice traditionnelle, objective et cohérente, les dénoncent comme autant de voleurs et d'assassins. D'où la violence politique qui se développe, au mépris des règles théoriques même de la démocratie sociale, contre les prétendus extrémistes, c'est-à-dire les opposants les moins incohérents, le Front National, ou les mieux inspirés comme les sauveteurs. Ainsi, nos démocrates sociaux affichent-ils de plus en plus les mœurs des léninistes. Et à mesure que progresse le cannibalisme moral socialiste, se développe de plus en plus la malhonnêteté intellectuelle avec ses manipulations vicieuses, ses faux concepts, faux évêques, faux démocrates, faux antiracistes. Je vous laisse le soin de compléter la liste. Le seul moyen d'empêcher que la démocratie sociale ne débouche sur le totalitarisme est donc de lui opposer le principe irréfutable de la justice comme non-agression. Car l'exemple même de Max Weber dans la République de Weimar suffit à montrer ce que vaut sa fameuse modération face à des subjectivismes plus dynamiques que le sien. En 1919, des étudiants de Munich, choqués par la violence dans le pays, l'avaient invité. Ils voulaient que ce grand savant leur dise quel système politique soutenir, comment juger des valeurs, quel rôle joue la science dans leur recherche. Weber répondit qu'il n'y avait pas de solution. La certitude était inaccessible. La connaissance provisoire, les valeurs relatives, et la science n'avait rien à dire de la politique et de la morale.
On sait comment ça a fini.
Face à la violence socialiste montante, Weber n'avait à opposer que l'absurdité obstinée de son refus de penser les valeurs. La conséquence, on la connaît. L'arrivée au pouvoir du socialisme hitlérien, dont chacun sait qu'il fut encore beaucoup plus criminel que la démocratie sociale, avec tous ces irrationalistes à la Weber qui lui avaient préparé le terrain et ouvert la voie. Peut-on dire que cette leçon-là au moins ait été comprise? Eh bien, pas du tout. Hannah Arendt jugeait après la guerre que si Hitler avait commis tous ses crimes, ce n'était pas parce qu'il était socialiste, mais tenez-vous bien, parce qu'il prenait la logique trop au sérieux. On peut laisser à Leonard Peikoff, qui rend compte de cette interprétation, le soin de la commenter. Hannah Arendt restait aveugle à la conclusion que son propre livre en rend pourtant quasi inéluctable, que l'essence des théories hitlériennes n'est pas la logique, mais la déraison, que la logique n'est pas un instrument de la tyrannie, mais l'arme qui permet de la combattre. Se pencher sur l'agonie d'un continent de victimes pour se retrouver à proposer en guise d'explication l'équivalent intellectuel d'un remède de bazar, et pire, recommander pour tout antidote un principe essentiel des assassins, c'est une faute et un avertissement. La bataille contre le socialisme national n'est pas encore gagnée. Tous ces démocrates sociaux et autres subjectivistes qui se prennent pour des libéraux illustrent tragiquement la définition de Léon Daudet, pour qui le libéral est celui qui pense que son adversaire a raison. Mais sa critique était mal dirigée. C'est de la démocratie sociale que ce subjectivisme, ce relativisme sont l'État, car il est le dernier avatar de l'irrationalisme socialiste. Aux gens normaux de le comprendre et de se rassembler autour du mot d'ordre, la démocratie sociale, voilà l'ennemi.
Merci. Alors, deux réactions parmi toutes celles qu'on a reçues et qui montrent bien l'éventail. Merci infiniment pour ces interviews ces interventions qui dépassent de loin en intelligence tout ce que l'on entend souvent sur les radios. À quand une émission dirigée par Monsieur Guillaume? Voilà. Et puis,
que c'est trop long.
Alors, un chauffeur de taxi dit, j'écoutais votre émission, quand Monsieur Guillaume a commencé à parler, ma cliente a exigé que je la dépose.
Il faudra le rembourser, celui-là.
Merci, François. Merci, monsieur l'abbé. On n'a pas le temps, hélas, parce que je voudrais pas me battre avec Daniel Amiche de vous demander ce que vous pensez de ça, mais la prochaine fois, on organisera un entretien avec... parce que je vois bien qu'il y a une chose au moins qui, là-dedans, ne reçoit pas votre assentiment. Je dis bien au moins. Merci, monsieur l'abbé. Merci, François. Merci, Philibert. À la prochaine fois pour d'autres musiques militaires. On nous demande des musiques militaires étrangères. Je sais que vous nous en proposerez.
Ah, j'en proposerai. Espagnole, italienne, allemande, de l'Est.
Bien sûr.
Et de l'Ouest.
Mais d'après. Merci à tous. Je rappelle que pour le dîner, vous téléphonez au 01 45, ça y est, je sais plus mon numéro de téléphone, 45 23 51 01 et 02, 45 23 51 01 et 02. Voilà, là, je fatigue. À vendredi pour ceux qui viennent en dîner avec nous. Et aux autres, bonne semaine. À la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs qui nous retrouvent pour cette seconde partie dans un studio qui n'est en fin de compte pas plus chaud que la rue qui nous environne, parce qu'on peut dire que vraiment c'est un mois de mai qui nous gâte en matière de chaleur. Alors je salue, mais elle n'est pas là, elle va arriver ici, la voilà. Je salue donc Marie qui a la gentillesse de nous assister toute cette soirée.
Bonsoir Daniel et bonsoir à Marie. Tous les auditeurs.
Et puis je salue également la présence dans le studio des deux invités avec lesquels nous allons nous entretenir ce soir. Benita Carteron, qui est secrétaire générale de l'association Patrimoine et Urbanisme, vient de nous parler d'une exposition très attirante, très intéressante, sur la machine de Marly. Ou plutôt, les machines de Marly, si j'ai bien pris ma leçon. Et vous allez voir comment on s'y prenait donc au grand siècle pour amener de l'eau jusqu'aux fontaines de Versailles. C'était une merveille des merveilles des merveilles, puisque bon, la machine de Marly était une merveille pour l'époque. Le château ne l'était pas moins, et alors quant aux fontaines, alors ça, c'était quelque chose d'inimaginable. Et puis nous recevons également avec beaucoup de joie, beaucoup d'honneur et beaucoup de réserve, nous qui ne savons rien, vraiment un savant et qui a aussi le mérite d'être un savant sympathique, ce qui n'est pas du tout désagréable. C'est Yves-Marie Berset, qui est professeur à Paris 4, et également directeur de l'école des Chartes, comme je sais qu'un certain nombre de jeunes chartistes écoutent ce soir, donc nous tâcherons de ne pas les décevoir. Il vient nous parler d'un livre qui vient de paraître, qui est paru il y a quelques semaines, ou quelques mois. Qui a d'ailleurs déjà fait l'occasion d'un passage, je crois, sur cette antenne. Il me semble vous avoir déjà entendu en parler.
Environ un mois.
C'était chez qui? Voilà, le problème, c'est que maintenant j'ai un trou. Je ne sais plus du tout chez qui. C'est peut-être Brigitte Level, non?
Oui,
non,
voilà.
Brigitte Level. Donc, un ouvrage collectif dont Yves-Marie Berset a assuré en quelque sorte la maîtrise d'œuvre, et auquel d'ailleurs il a aussi largement contribué, pas seulement par une introduction, mais aussi par un très très grand chapitre, sur les monarchies, qui rentrent dans le cadre d'une collection publiée aux Presses universitaires de France sur l'histoire générale des systèmes politiques. Alors c'est un très beau livre, bon je dirais que c'est un livre qui honore l'université française, évidemment, mais disant cela, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, c'est un livre qui devrait vraiment être dans toutes les bibliothèques. Pour tous ceux qui s'intéressent un peu à la chose politique, à la res publica, eh bien, il faut réfléchir, il faut voir comment ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous accompagnent encore aujourd'hui, puisque la monarchie, je ne veux pas anticiper sur le débat que nous allons avoir, mais enfin, la monarchie est encore bien présente dans l'univers aujourd'hui, et même à nos frontières, si tant est que nous ayons encore des frontières. Et puis, certains peuvent imaginer qu'elle pourrait réapparaître encore dans d'autres pays. Mais ça, c'est un sujet. Je ne veux pas anticiper sur le débat que nous allons avoir dans quelques minutes avec Yves-Marie Berset. Et avant, bien sûr, il me faut quand même faire les petites annonces habituelles, tout en m'excusant, enfin présentant par avance mes excuses aux auditeurs, parce que malheureusement j'ai attrapé froid il y a une quinzaine de jours et je n'arrive pas absolument pas me débarrasser de ce rhume. Donc s'ils entendent des reniflettes, là malheureusement Franck ne pourra rien faire ce soir, on ne pourrait pas gommer les reniflettes. Voilà, enfin, non, donc je suce des bonbons pour m'adoucir la gorge, mais quand même, c'est un peu difficile. Dès qu'il fait chaud, les rhumes sont extrêmement désagréables. Alors, je voulais vous entretenir sur les deux prochaines rencontres, de rencontres culturelles évidemment, de Paul Bilaire. Pour vous annoncer donc que samedi prochain, il vous invite à découvrir le Palais Royal, qui est une création de du cardinal de Richelieu, son histoire, ses hôtes illustres, son quartier, et il vous convie donc à 14h45 dans le jardin, devant le numéro 4 de la galerie Montpensier. Le métro, le plus pratique, je crois, c'est Palais Royal. Évidemment, c'était Palais Cardinal, et puis ensuite c'est devenu Palais Royal. Alors, un petit détail d'ailleurs historique, je crois que c'est dans une des galeries de... ce qu'on appelle aujourd'hui les galeries Montpensier, donc ces galeries commerciales qu'il y avait à l'époque, que Charlotte Corday a acheté le couteau qui lui a servi quand même à libérer la France d'un personnage qui commençait vraiment à être un peu trop. Non, mais c'est vrai, moi je suis pour les femmes et pour la coutellerie, vous voyez, quand les deux sont bien utilisés. Voilà. Et le samedi 23 mai, c'était dans le samedi suivant, et bien cette fois-ci, Paul Bilaire vous invite à redécouvrir ou à découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas encore, cet endroit tout à fait attachant de Paris, qui est le cimetière du Père Lachaise. Et de découvrir les tombes, les gisants de tous ces morts illustres qui parsèment ces allées. Alors, Balzac, Delacroix, Géricault, Gérard de Nerval, Bizet, Corot, Daumier, etc., etc. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et puis, je voulais également rappeler donc à nos amis qu'à l'occasion du premier anniversaire de la mort de Marc Dehm, qui était l'époux de Cécilia Dehm, que vous entendez ici une fois par mois, puisqu'elle vient présenter une émission sur les fleurs, donc c'est une émission, l'émission florale de Radio Courtoisie, eh bien une messe de bout de l'an sera célébrée le 26 mai prochain à 18h30 en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Et logiquement, je pense que c'est monsieur l'abbé Laurence qui la célébrera. Donc 26 mai 18h30, une messe de bout de l'an pour notre ami Marc Dehm. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de mes annonces. Évidemment, il faut rappeler aux auditeurs, enfin, ils le savent, on va leur redire, on leur dit plusieurs fois, puis après il va y avoir un bobino spécial, ça va être formidable, que cette fois-ci, la fête de la courtoisie se tiendra le dimanche 28 juin de 10h à 19h. Alors elle se tiendra, je le précise, dans des conditions beaucoup plus agréables que les précédentes, puisque cette fois-ci c'est la mutualité, c'est-à-dire le grand théâtre de la mutualité qui sera à notre disposition. Je rappelle que l'air y est conditionné, ce qui n'était pas le cas dans la grande salle que nous louions au premier étage. Donc on peut y venir non seulement aussi nombreux, mais plus nombreux que les années précédentes. Et puis le buffet sera démultiplié. Voilà, donc il n'y aura plus d'émeutes, d'émotions, comme on disait au XVIIe siècle, autour des buffets. Voilà, maintenant chacun pourra avoir au moins 20 cm pour manger son assiette. Alors donc ce sera le 28 juin, je pense que vous aurez beaucoup d'annonces qui vous seront faites dans les semaines qui viennent, et puis le petit bobino spécial passera de manière régulière. Alors, je me tourne d'abord, honneur aux dames, voilà. Comme toujours, parce qu'ici nous sommes une radio courtoise, donc nous laissons toujours la parole aux dames. Et je tiens bien sûr à saluer votre participation, votre présence ce soir, puisque très gentiment, quand je vous ai appelé, ça fait très peu de jours, en fin de compte.
Oui, et puis disons que comme si nous sommes à 3 jours du vernissage,
donc on est tout prêt,
nous relevons nos manches.
Voilà, hein, on est tout prêt.
Je dois dire que il y a beaucoup de travail.
Donc vous êtes la secrétaire générale, parce que généralement les associations, il y a un président. Tu ne fais rien du tout.
Non, le nôtre est très actif. Non, on est
une petite
équipe.
Le plus mauvais boulot, c'est le vôtre, hein. Secrétaire général, généralement, c'est
un peu
sale travail.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas un sale travail du tout, c'est très intéressant. Mais je vous parlerai de mon association après, qui est une association très méritante.
Nous allons en parler, nous sommes là justement pour parler des associations méritantes.
Au fond, on est quand même là pour parler de cette exposition.
Alors, une exposition sur la machine de Marly. Tout à l'heure, vous me disiez en antenne, dans le studio, que nous avons un peu bavardé pour se décontracter et se mettre dans la bonne ambiance de ce soir, qu'il faudrait plutôt parler des machines de Marly. Alors, pourriez-vous nous dire quelque chose, au moins sur la première machine de Marly. Et pourquoi la machine
de
Marly?
Bien sûr. Alors d'abord, je voudrais quand même... Ça devrait s'appeler les machines de Marly. En plus, ça devrait s'appeler la machine de Bougival, ou la machine de Louis XIV, ou enfin bon...
Donc le titre d'expression, c'est tout faux. C'est
déjà...
pas la machine de Marly, c'est les machines de Bougival.
Elle est passée dans l'histoire sous le titre de machine de Marly. Et d'ailleurs, il y a une raison pour ça que j'expliquerai peut-être, si j'ai le temps. Au fond, la huitième merveille du monde, c'était la première. Et derrière cette machine de Marly qui a disparu en 1817, il faut dire qu'il y avait le rêve d'un roi. Et le roi, c'est Louis XIV, naturellement, qui voulait faire de son règne un grand règne et qui voulait faire de Versailles l'image de la grandeur de ce règne.
À cet égard, il n'a pas trop mal réussi quand même.
Il n'a pas trop mal réussi. Cela. Mais alors, il ne faut pas négliger du tout le fait, le choc, on peut dire, alors qu'il est tout jeune. De ce qu'a été cette fête catastrophique, je dirais, de Fouquet, qu'il avait donnée dans son château de Vaux pour éblouir le roi. Et le roi n'avait pas été ébloui, il avait été furieux. Car, au fond, Fouquet avait donné un spectacle qui était digne d'un roi, s'attribuant des mérites que Louis XIV voulait pour lui seul. Et ce qui avait beaucoup marqué Louis XIV, c'était justement la magnificence des jardins et des fontaines, l'eau fusée de partout. Et à Versailles, qui sortait de très peu de choses. Il y avait quand même ce domaine charmant, et, modeste mais charmant, que lui avait légué son père, mais qui ne correspondait pas à l'idée que se faisait de sa magnificence.
Il faut dire quand même que ce pauvre Louis XIV a vécu quand même toute sa vie dans des chantiers, dans des gravats, dans des courants d'air.
Tout à fait.
Comme être honnête.
Et donc, dans ce Versailles qui commençait à naître, l'idée fixe, on peut dire, c'est une idée fixe, une obsession de Louis XIV, c'est l'eau. Or, à Versailles, il n'arrive pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, c'est sur un sommet, les cours d'eau sont très loin. Donc, on crée des fontaines, c'est incroyable, parce que maintenant, il y a à peu près 600 fontaines et bassins. À l'époque de Louis XIV, il y en a 1400. Mais l'eau n'y coule pas, l'eau ne fuse pas. Et quand le roi fait sa promenade, il faut se dépêcher d'ouvrir les robinets et les fermer pour que à l'étape suivante, voilà. Alors, la recherche de l'eau va devenir une obsession. On cherche des tas de choses, je ne vais pas tout vous raconter parce que on va se contenter de la machine.
Aussi,
C'est tout à fait dans l'exposition aussi. Jusqu'à cette idée tout à fait extraordinaire de vouloir détourner la Loire, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quand même ahurissant. Donc on a renoncé à ce projet, mais la Seine était quand même beaucoup plus près. La Seine était à peu près, ça doit être à 12 km à vol d'oiseau. Mais malheureusement, entre la Seine et Versailles, il y a une colline de 160 mètres, qui est d'ailleurs ravissante, qui sont les coteaux d'Oussienne.
Et l'eau a la fâcheuse habitude de tomber
surtout,
mais de pas monter.
Et voilà. Et surtout à l'époque, si vous voulez, il n'y avait aucun moyen de faire monter l'eau à 160 mètres. Les moyens techniques permettaient 50 mètres, pas plus. Et bon, donc on avait renoncé à cette idée. Et puis il y a un gentilhomme belge qui était un ambitieux, un arriviste, il faut dire,
c'était un flamand alors.
C'était un liégeois. Je ne sais pas ce qu'on peut dire à l'époque.
Français.
Liégeois.
Il dépend de l'évêché de Liège.
Les Liégeois sont plus français que les Français aujourd'hui, d'ailleurs, il faut dire.
Qui avait fait son trou à Versailles.
Une principauté ecclésiastique.
Voilà.
Ouais. Qui avait fait son trou à Versailles et qui a tout de suite compris que pour être bien en cours, eh bien, il fallait résoudre le problème de l'eau. Or, dans son pays, il y avait une machine hydraulique qui avait amené l'eau courante dans un château qu'il connaissait bien, qu'il fréquentait, qu'il a fini d'ailleurs par acheter, qui était le château de Modave. Et il y avait, c'était une chose extraordinaire à l'époque. Et ça avait été fait par une famille de charpentiers, liégeois aussi. Et cet Arnold de Ville, donc, va vendre cette idée de la machine à Versailles. Et il va la vendre si bien que le roi va y croire. Et il dira qu'il a les moyens. En fait, il ne les avait pas. Reine Quinsoilem, qui était le charpentier, c'était une famille, était un garçon extrêmement astucieux et avait pensé qu'en faisant monter l'eau par trois étages successifs, on y arriverait. Arnold de Ville a eu le talent de vendre cette idée à Louis XIV, et Louis XIV a marché et a donné le feu vert. Et à ce moment-là, ça n'a pas chômé. En 4 ans, la machine était bâtie, et c'était incroyable, c'était un monstre qui a été appelé la 8e merveille du monde, mais qui a empoisonné, on peut dire, l'atmosphère pendant 133 ans, parce qu'elle faisait un boucan épouvantable. La Seine a disparu sous une énorme plateforme de bois, avec des galeries où il y avait 14 roues, à cause du monarque, hein, honneur au monarque. Et puis, il y avait 283 pompes. Enfin, c'était quelque chose d'ahurissant, mais ça marchait. Et il y a eu une inauguration solennelle. Mais quand on dit que ça marchait, il faut voir que c'est un petit peu comme Madame de Sévigné qui mettait combien pour aller de Paris à Grignan, hein,
un certain temps, comme
disait Fernand Reynaud, hein, un certain temps.
Du début du siècle.
Bon, eh bien l'eau, si vous voulez, mettait au meilleur de sa forme, parce que très vite ça a baissé. La machine était capable d'amener à peu près 2000 mètres cubes d'eau, ce qui ne suffisait pas à calmer la soif des fontaines. Et puis, il y avait un entretien absolument fantastique. Mais pendant 4 ans, ça a été quelque chose d'incroyable. 8000 hommes, vous assommer de chiffres, hein. Mais c'est incroyable, mais incroyable ce que ça a été. Oui. Et beaucoup d'accidents, beaucoup d'hommes noyés, parce que la protection, disons, des hommes n'était peut-être pas la préoccupation majeure. Il y avait un peu un service, je dirais, une sécurité royale, puisqu'on donnait quand même un petit peu d'argent quand on perdait un bras ou une jambe, parce qu'on avait été broyé par les roues.
Oui, là je dirais quand même, là, si vous me permettez de faire une toute petite incise, qu'on ne traitait pas exactement les ouvriers de cette époque comme des esclaves. Et on le voit d'ailleurs quand on travaille un petit peu sur l'affaire du canal du Midi, qui est une autre magnifique, prodigieuse réalisation. Mm-hmm. Il y a eu quand même énormément d'édits qui ont été pris au profit des travailleurs de l'époque. On leur garantissait, en cas de pluie, un salaire minimum, en cas de maladie aussi. Donc il y avait quand même un souci de protection des personnes.
Oui, mais modeste.
C'est vrai que quand on travaille,
modeste quand même.
Quand on travaille sur des chantiers, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui.
Oui.
Quand on travaille sur des chantiers de très grande taille ou dans des machineries extrêmement compliquées, les accidents arrivent.
Oui, il y avait tout de même, si vous voulez, il y avait justement pas de rambardes. On travaillait souvent dans le noir parce que c'est tout ça, il fallait aller vite. Il y avait une question de course, on peut dire, au résultat, si bien que, bon, on travaillait la nuit. Alors, vous imaginez, la nuit, sans rambarde dans des trucs, sur des...
Et donc, on tombe à l'eau, comme tout le monde ne savait pas nager à l'époque.
Voilà. Donc, ça a été une aventure extraordinaire, et considéré comme la 8e merveille du monde, qui était extrêmement célèbre, si bien que les visiteurs de Marc se pressaient. On a l'ambassadeur de Siam, on l'a amené voir la machine de Marly. Cela dit, la population de Bougival a eu tendance à diminuer beaucoup pendant la période où la machine a marché, parce que ça faisait un boucan véritablement infernal. Et quand elle commençait quand on était tranquille, quand elle ne marchait pas, quand il y avait de la glace sur la Seine et que justement on arrêtait la machine, parce que c'était effarant.
Un peu comme les gens qui habitent près d'un aéroport aujourd'hui, je pense que
oui.
Ils ont du mal à revendre les propriétés qu'ils ont acquises il y a quelques dizaines d'années.
Alors, l'entretien coûtait extrêmement cher. Il y avait 50 hommes qui travaillaient. Il n'y a pas de chômage dans ce temps-là. 50 hommes qui travaillaient à plein temps. Et le rendement était quand même de moins en moins satisfaisant, si bien que, au lieu d'alimenter, ça n'a pas tellement alimenté Versailles finalement, et c'est pour ça, je vous disais que ça s'appelle la machine de Marly, c'est que ça a surtout servi aux fontaines et aux bassins du château de Marly. Voilà. Mais si vous voulez, ce que je trouve intéressant d'ailleurs dans cette exposition, je dois dire, c'est que le site de ce site-là est resté quand même un endroit pour l'eau. Et actuellement, alors c'est là où on voit la différence, c'est comme Madame de Sévigné, le TGV, il met 4 heures maintenant pour aller à Avignon. Et bien là, c'est pas 2000 mètres cubes par jour, c'est 6000 mètres cubes par heure. Qui abreuve 350 000 foyers.
Oui,
parce que actuellement, c'est exploité. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons eu, enfin, nous sommes, il faut que je salue quand même la Société des Eaux qui s'appelle le SIX-SEVES, qui nous a permis d'organiser cette exposition, alors que nous avons eu très peur qu'ils nous refusent l'autorisation. Le lieu qui est beau n'est ouvert qu'au moment des journées du patrimoine. Sans ça, c'est... D'ailleurs, nous avions au début beaucoup de mal à venir travailler parce que c'est presque l'industrie de la défense. Voilà, hein, il fallait laisser sa carte d'identité. Ça serait affreux si un anarchiste...
Il peut empoisonner l'eau. Enfin, tout ça peut arriver.
On ne sait pas.
Alors, donc, on peut dire qu'il y a plusieurs époques dans l'histoire de la machine de Marly. Disons, la première époque est celle où la machine d'origine va continuer à fonctionner jusqu'à 1817,
où on décide de l'arrêter.
Après, on y substitue...
On continue à chercher. Et d'ailleurs, même pendant qu'elle marchait, il y a toujours eu des projets pour essayer de grimper d'un seul bond et d'avoir moins de perditions d'énergie. Et naturellement, quand la vapeur arrive, on pense à la vapeur. Oui. Et on a donc eu une machine qui s'appelle la machine de Cécile et Martin, qui n'a pas marché pendant très longtemps, pendant 30 ans, parce que, là encore, c'est les chiffres, je crois que c'était 100 tonnes de charbon par jour qu'il fallait pour la faire
très
marcher.
C'était
très gourmand, et tout le monde disait, c'est quand même bête, il y a l'énergie qui est dans la Seine, pourquoi on la ferait pas marcher? Donc ça a duré à peu près une trentaine d'années. Et Napoléon III, qui était un homme quand même moderne, marcher alors avec la dernière machine, celle que j'ai connue, qui s'appelait la machine de Dufrayer, qui reprenait l'idée d'une machine hydraulique. Et c'est celle qui est connue parce que les peintres impressionnistes ont beaucoup peint. Oui. Et donc, il y a toute une partie de l'exposition. Alors, si vous voulez, la partie peut-être la plus excitante de l'exposition, c'est la partie consacrée à la machine de Louis XIV, d'autant plus que je dois dire que nous avons pu réaliser une maquette animée.
Qui bouge, voilà.
Qui bouge. Ça, alors que je voudrais dire, j'en avais vu des maquettes, en particulier, il y en a une au musée Promenade, je ne sais pas si vous la connaissez, professeur, elle est intéressante. Mais c'est un petit bout de machine, c'est vraiment très, 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 enfin un petit bout, quoi. Et puis, c'est complètement immobile. Et moi, qui ne suis pas très technique, je n'y comprenais rien. Tandis que là, et même moi...
Voilà, on comprend.
Je comprends. Et surtout, maquette, c'est très, très expliqué.
Vous l'avez fait refaire spécialement pour cette exposition ou elle existait déjà dans un
autre
coin
bricoleur. Non, pas du tout. C'est un autre bricoleur génial. Et c'est mon mari, dire.
Alors, j'aurais dû l'inviter aussi.
Oui, je pense. Parce que vraiment, je dois dire que j'ai décidé. Parce que c'est parti de... C'est une anecdote, je ne devrais peut-être pas raconter ça à la radio.
Ah, ça, moi, je suis pour la paix des ménages. Donc,
mais c'est parti de tout bonnement de... Bon, cette exposition, on y pense depuis un certain temps. Elle avait d'ailleurs eu lieu, plus modeste, en Allemagne et en Angleterre, ce qui était un comble, et jamais à Bougival, où c'était quand même le fief. Et donc, on en parlait depuis longtemps, on avait le projet, on avait les dates. Et puis, à Noël, un de mes petits-fils a demandé un jeu Canex. Vous ne savez pas ce que c'était, on a acheté une boîte de jeux Canex. Et dans notre salon, il a construit un truc ahurissant, qui lui aussi était animé. Et mon mari n'a rien dit, mais il a dit, je vais faire la machine de Marly. Et je dois dire qu'il y a passé 150 heures aussi, non plus. Et que on a eu les pièces détachées en abondance. Je peux pas vous dire, c'est tout écrit, mais il y a énormément de pièces. C'est très compliqué, mais c'est tout à fait exact. C'est-à-dire, ce mouvement circulaire des roues, il y a que trois roues. Mais en fait, trois roues, on voit déjà bien, parce qu'il y a le système des petits chevalets qui montent à l'étage, le premier étage, et c'est le système des grands chevalets qui montent beaucoup plus haut, et puis il y a un troisième étage encore pour aller à l'aqueduc. Et tout ça, on peut arrêter une machine.
On le voit bien sur la gravure qui illustre le catalogue, et que verront nos auditeurs s'ils se rendent à cette exposition. Ils verront ce portrait, cette peinture d'époque.
Elle est à l'entrée. Parce que je dirais que l'introduction, c'est quand même un hommage à Louis XIV. Parce que vraiment, c'est le rêve d'un monarque. Il n'y a pas de doute,
Il en a eu plusieurs.
Mais là, il y avait un fantasme tout à fait significatif. Ouais. Ça commence d'ailleurs par une fresque. On a un peintre qui a fait une énorme fresque où on voit Louis XIV rêve d'eau, qui a les pieds dans l'eau, il rêve d'eau.
Je trouve que c'est astucieux également d'avoir fait ce petit clin d'œil eu égard au fait que beaucoup de peintres ont peint la machine dans son dernier ou avant-dernier stade.
Oui, tout à fait.
Parce qu'en même temps, la région dans laquelle vous vivez et là où se trouve l'exposition, cette boucle de la Seine, a toujours été extrêmement choyée, extrêmement recherchée par les peintres, notamment les impressionnistes.
Tout à fait. C'est amusant de penser que... Mais alors, même avant, parce que Turner est venu. Et Turner a peint la machine de Marly, c'est assez drôle. Dans le fond, enfin, c'est toujours un décor. Sisley est certainement celui qu'il a le plus aimé. Et honnêtement, il fallait l'œil d'un peintre, parce que moi, je ne trouve pas qu'elle était très jolie. C'était pas très joli. Mais les peintres l'ont adoré. Et donc, il y a une partie de l'exposition.
Donc, on verra dans l'exposition.
Et puis, alors, il y a un côté qui est patrimoine industriel, parce que, comme je vous disais, il y a toujours eu, après même cette machine de Dufrayer, il y a ces énormes machines de Schneider et tout ça, qui sont d'ailleurs pas en très bon état, parce qu'elles sont abandonnées depuis un certain temps, qu'on peut voir. Et puis, il y a le bruit de fond des. Alors là, ça fait très. Comment dire, très vrai. Il y a le bruit de fond des pompes. Qui était même quelquefois un peu gênant, qui donne de l'eau à tout le monde. Alors les peintes, effectivement, c'est la richesse de notre boucle. Il n'y a pas que Bougival, là. Il y a Chatou, il y a Lucienne.
Oh, si, toutes ces communes qui se.
D'ailleurs, quand j'ai dit la machine de Marly, c'est Bougival, je dois dire que au fond, Lucienne, si, c'est en partie les canalisations, c'est sur le territoire de Lucienne, puis ça va quand même à Versailles et à Marly. Mm-hmm. Donc c'est très œcuménique. Voilà.
Alors, je vais donner quand même tout de suite l'adresse de votre association, puis ensuite on va donner l'adresse exacte de l'endroit où se tient l'exposition,
les
informations
aussi.
Pratiques. Alors donc, pour les dates, c'est du 16 mai, c'est-à-dire samedi prochain, c'est dans 3 jours, enfin dans 3 jours pour ceux qui nous écoutent ce soir, mais dans 2 jours pour ceux qui vont nous écouter demain matin en rediffusion, je les salue d'ailleurs par avance, jusqu'au 7 juin. Donc, attention, ça ne dure pas tant que cela.
Non.
C'est-à-dire, on a 3 bonnes semaines pour découvrir cette exposition. Mais toutefois, elle est ouverte de 14h à 18h, c'est-à-dire en fait l'après-midi, les week-ends et les jours fériés. Là, vous n'êtes pas sur la règle des musées nationaux avec le mardi ou le lundi, etc.
Et 10 à 18h.
Donc, c'est 10 à 18h les jours fériés, donc le samedi et le dimanche. Quand vous vous reposez à mes auditeurs, eh bien, nos amis de l'association Patrimoine et Urbanisme, eux travaillent. Ils travaillent pour votre plaisir et pour votre découverte. Donc, vous rendrez au 12 quai Rennequin.
Sualem.
Avec 2 N, Sualem, S-U-A-L-E-M.
En pensant, alors je peux me permettre de rajouter un tout petit quelque chose. Ne roulez pas trop vite, parce que dès qu'on voit l'écriteau Bougival, il y a des tas de choses intéressantes
à
regarder.
Oui, tout à fait.
Il faut regarder sur sa droite. Et c'est très joli.
Oui, non,
c'est il y a la maison de Bizet.
Voilà, maison de Bizet. C'est un endroit absolument charmant. Vous pouvez y passer toute la journée.
Voilà.
Vous pouvez vous déjeuner sur place. Enfin, pas très très loin. Là,
il y a des bons restaurants.
Le petit restaurant dont nous parlions tout à l'heure qui se trouve.
Le Cocardi, c'est fermé.
Le Cocardi, malheureusement,
est
fermé.
C'est très cher. Hein. Enfin, ça sera très cher.
C'était très bien. Mais c'était pas sur une espèce de péniche en.
Ah non, ça c'est ailleurs. C'est plus loin. Mais le Cocardi, est un peu responsable de la destruction de la dernière machine, parce que ça sentait mauvais.
Voilà, on ne parlera plus de
le brassage des eaux sales sentait mauvais.
Donc, du 16 mai au 7 juin, de 14h à 18h en jour ouvrable, et les week-ends et jours fériés de 10h à 18h. Donc, l'adresse de cette exposition, c'est au 12 quai Rennequin-Sualem à Bougival. Alors, l'entrée, c'est... vous faites payer, mais c'est vraiment très symbolique. C'est 20 francs pour les adultes.
Oui, c'est quand même, ça nous aide, parce que ça a coûté très cher.
C'est symbolique. C'est gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. Et puis alors, pour les groupes, eh bien, il y a des tarifs.
Oui, mais alors là, il faut s'inscrire. Parce qu'en général, les groupes, c'est des visites conférences.
Voilà, on en parle tout de suite. Donc, si vous souhaitez avoir des renseignements ou prendre contact avec les animateurs, enfin les responsables, les organisateurs, pour un déplacement d'un groupe, d'une école, d'un cours privé, d'une association de toutes sortes, alors vous écrivez, vous téléphonez à votre association, Patrimoine et Urbanisme. On va donner le numéro de téléphone, c'est le 01 30 82 79-29.
Donnez aussi celui de la mairie, parce que moi je ne suis pas surtout en ce moment, je ne suis pas beaucoup là.
Je redonne quand même, si vous m'autorisez, une autre fois votre numéro de téléphone, parce que là, la mine de crayon vient de casser, hein, ou le papier vient de tomber par terre, donc il faut laisser à nos auditeurs le temps de reprendre un crayon et une feuille de papier. Donc, patrimoine et urbanisme, 01 30 82 79 29. Et également, donc, le syndicat d'initiative de Bougival, qui se trouve à la mairie de Bougival. Le téléphone est le 01 39 69 21 23. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous pouvez réécouter demain matin. À défaut, bien vous cherchez sur votre Minitel le numéro de téléphone de la mairie de Bougival. C'est dans le 78, c'est les Yvelines, donc. Et vous tombez, vous aurez tout ce qu'il faut. Vous appelez la mairie, vous passerez le service compétent. Marie ?
Oui, Daniel,
vous avez deux, trois petits messages. Oui, alors on n'a pas dit qu'on était sur Radio Courtoisie, que les auditeurs, bien sûr, peuvent nous appeler s'ils le souhaitent, s'ils le désirent, poser une question, avoir un renseignement, au 01 46 51 00 85, qui peuvent également télécopier leur message au 01 46 51 21 82.
Oui, alors un auditeur nous signale qu'à Madagascar, on arrive à faire monter l'eau à 200 ou 300 mètres de hauteur pour cultiver le riz par des moyens rudimentaires, mais très ingénieux.
Ah oui. Bah, c'est le principe que c'est des espèces de petites norias successives, mais il faut là une personne par palier. Je ne crois pas que ce soit mécanisé. Là, l'idée de la machine de Marly, c'était la mécanisation de la montée de l'eau. C'est là où il y a vraiment une percée technique extraordinaire. Autre message, Marie ?
Un autre message est relatif à l'annonce que vous faisiez en début d'émission sur les rencontres Paul Bilaire, parce que, semble-t-il, vous n'avez pas indiqué l'heure et le lieu du rendez-vous. Pour le Père Lachaise, c'est le...
Le Père Lachaise, c'est donc le 23 mai, entrée avenue du Père Lachaise, et au métro Gambetta, c'est l'entrée du cimetière à 14h45, et le samedi 16 mai, c'est le Palais Royal, donc au rendez-vous numéro 4 de la galerie Montpensier, après le métro Palais Royal.
Voilà,
très bien. Un petit mot, je vous donne encore 2-3 minutes pour parler de votre association.
Ah.
Vous me direz, c'est pas assez, il faut que je vous réinvite.
C'est un petit peu difficile. Enfin, si vous voulez, au fond, on s'est rendu compte, à force de défendre un certain nombre de choses, et en particulier les bois qui sont la gloire de Bougival, parce que quand on voit ce clocher qui est un clocher du 12e, nous l'avons défendu bec et ongle, et nous l'avons il y a un projet de classement de cette colline, et à force de chercher des raisons de classer, parce que c'est difficile de classer, on s'est rendu compte de la valeur culturelle de Bougival, alors que j'habitais dans la région depuis des années et que je savais rien. Et quand on a vu que les musées du monde entier soutenaient cette demande de classement parce que cette colline avait été peinte, on a commencé à se poser des questions. Et c'est de fil en aiguille qu'on s'est aperçu que, tout doucement, comme dans tellement de communes de la région parisienne, ça se massacrait gentiment, disons. C'est-à-dire que les petites maisons disparaissaient et que chaque fois on construisait quelque chose d'anarchique. Et qu'il n'y avait pas, de projet d'urbanisme, il n'y avait pas de projet à long terme, il n'y avait rien. Et donc, c'est pour ça que notre association s'appelle Patrimoine et Urbanisme, parce que c'est à la fois une recherche de ne pas voir disparaître ce patrimoine. En ce moment, nous sommes très inquiets sur la datcha de Tourgueniev et sur la maison de Pauline Viardot, qui risque bien de partir parce qu'elle est en vente. Mais il y a eu des tas d'épisodes comme ça, malheureux, où on a laissé perdre des choses. Et donc, nous essayons d'attirer les projecteurs sur la valeur du patrimoine culturel et architectural de Bougival.
Vous faites un beau travail. Je crois que le meilleur moyen de vous aider dans cette noble tâche, c'est d'abord d'aller voir votre réalisation, c'est-à-dire l'exposition de cette année. Et puis ensuite, pour nos éditeurs qui sont vraiment dans le 78, puis même pour ceux qui sont au-delà du 78, parce que nous sommes écoutés un petit peu au-delà quand même de l'Île-de-France, jusqu'en Normandie et dans la région centre, et bien au Pays de la Loire même, puisque le Mans est considéré comme faisant partie des Pays de la Loire, et bien le mieux c'est de vous téléphoner. Donc je redonne le numéro de téléphone de l'association, c'est le 01 30 82 79 29. Et puis également, vous avez un siège, le siège de l'association Patrimoine et Urbanisme, qui est au 16 rue Philippe Paget, 16 2x8 rue Philippe Paget, 78 380 Bougival. 78 380 Bougival.
Merci infiniment. Simplement, en ce moment, je crois qu'il est sage de me téléphoner aux heures des repas.
Voilà.
Parce que je serai beaucoup à l'exposition. Oui, tout à fait.
Et vous n'êtes pas encore équipé de ce téléphone, vous savez, qui...
Mais non, malheureusement.
Qui sonne
partout.
Non,
je ne suis pas du tout moderne.
Hein. Non, mais c'est extraordinaire. Maintenant, dans les messes aussi, il y a des téléphones qui sonnent. C'est quand même quelque chose d'extravagant. Mmh. Alors, peut-être une toute petite question sur les chevaux de Marly. Qu'ont-ils à voir avec la machine de Marly? Alors, peu, sinon qu'ils ont à voir avec le château de Marly, peut-être.
Oui, exactement. Oui, tout à fait. C'est... Alors là, j'avoue mon incompétence totale. Je ne voudrais pas dire des bêtises.
Je pense que c'était les chevaux de Marly étaient au château de Marly, qui a disparu, malheureusement.
Malheureusement, oui. Bêtement, je dirais. Bêtement. Hélas, oui. Bêtement.
Mais nous allons avoir bientôt une reconstitution du château de Marly en réalité virtuelle, en image informatique,
ah oui.
En trois dimensions, qui va être, je sais, parce que c'est un ami qui travaille, c'est le prince Rémy de Bourbon-Parme d'ailleurs, qui est venu ici pour esquisser tout doucement ce projet. Donc c'est un projet assez long, parce que ça va faire beaucoup de calculs, mais nous aurons bientôt un disque compact qui, mis dans une machine, toaster, nous permettra de nous balader dans la reconstitution de ce magnifique château de Marly. Marie.
Oui, une question. Une auditrice nous demande, enfin vous demande, pourriez-vous redonner lentement, s'il vous plaît, l'adresse de l'exposition à Bougival?
Eh bien,
c'est la mine qui s'est cassée au moment où vous l'avez redonnée.
La mine s'est cassée, où il y avait peut-être plus de mine à ce moment-là. Alors, je redonne quand même l'adresse du lieu de l'exposition. C'est au 12 quai Rennequin avec deux N, su à l'EM. Donc c'est un quai, c'est en bordure de Seine, 78 380 Bougival. Voilà, donc vous pouvez pas vous tromper en y allant, c'est très facile, hein, Bougival est vraiment très facile.
Vraiment l'itinéraire est
très facile,
simplissime
d'accès. Merci beaucoup, Madame Carteron, de toutes ces explications. J'espère que beaucoup d'auditeurs se rendront voir l'exposition. Et si j'ai un petit peu de temps, j'avoue que j'aurai bien plaisir,
beaucoup de plaisir
à la découvrir, parce que je suis sûr que c'est fait avec autant de goût que vous avez mis de passion à parler de cette exposition et de votre association.
Oui, on s'est beaucoup amusé. On a beaucoup travaillé, mais on s'est beaucoup amusé.
Eh bien, c'est parfait. Donc, je me tourne vers le professeur, à présent, le professeur Bercé, pour parler. Bah, en fin de compte, on va rester un petit peu dans la tonalité Louis XIVe, encore que le livre commence bien avant et va bien au-delà.
Oui, je crois qu'il ne faut pas confondre, justement. Enfin, c'est quelque chose que j'essaie de montrer, c'est que peut-être à juste titre, dans l'histoire de France, la période Louis XIVe pèse considérablement, puisque c'est un moment là de grandeur du royaume à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur du monde. La France est, je dirais, à son maximum de puissance politique, et cette circonstance démographique, sociale, correspond à un règne particulièrement long et où le royaume est aux mains d'un personnage qui a énormément de talent, mettons, et qui est parfaitement conscient de ses virtualités. Il y a une sorte d'apothéose Louis XIVe qui fige peut-être l'image de la monarchie, et ce livre dont on va parler tente notamment de dissocier peut-être
déjà au moins de bien comprendre ce qu'était la monarchie de Louis XIV, ce qui n'est pas vraiment évident, parce que si Louis XIV est resté quand même assez présent un petit peu dans l'imaginaire national aujourd'hui, vous qui adorez toutes les théories du comportement, vous savez que Louis XIV est sans doute le personnage historique, enfin le roi de France en tous les cas, qui est le plus représenté actuellement dans la publicité. Alors je pourrais comme ça vous citer un certain nombre de marques,
oui,
je ne le fais pas, parce que nous sommes sur radio, on ne fait pas de publicité, que ce soit des voitures, que ce soit des installateurs électriques, que ce soit des boissons, des bières, eh bien on prend l'image Louis XIV.
Bien sûr, il y a la conjonction du personnage exceptionnel, d'une réussite politique relative, mais enfin glorieuse dans son ensemble, et de sa concrétisation architecturale dans le palais de Versailles. Alors cette rencontre de phénomènes fait que la mémoire de Louis XIV dans l'imaginaire mondial, dans l'imaginaire du pouvoir, a une place gigantesque. Alors, je crois que si l'on veut étudier le phénomène des monarchies comme système de gouvernement, comme système politique, il faut essayer de comprendre que la période louis-quatorzienne n'en est qu'un avatar, n'en est qu'une forme parmi d'autres, et qui serait trompeur sans doute de confondre totalement la monarchie avec le système oui. Louis XIVien.
Une forme et peut-être aussi une étape, parce que c'est sûr que dans le discours, j'allais dire des idéologues, je mets des guillemets tout de suite, de l'époque de Louis XIV, on considérait la monarchie telle qu'on la vivait comme étant la plus achevée des monarchies, la plus
parfaite des institutions. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, il y a peut-être une efflorescence, si vous voulez, de la pensée politique. Il y a un très grand nombre d'auteurs qui contribuent à construire une légende, une historiographie des dynasties françaises et qui va forger la théorie de l'exercice absolu du pouvoir. Wow. Et je crois que cette construction portait en germe sa destruction à terme, dans la mesure où Louis XIV s'enfermait dans cette espèce d'utopie architecturale que représente Versailles, échappait au devoir de présence qui avait été essentiel dans la représentation du pouvoir royal pendant des siècles. Et je crois que à terme, la schématisation Louis XIVienne était lourde de malentendus et de portée, enfin c'est un peu la prophétie dans le passé, c'est un genre détestable, mais enfin je crois qu'il y a une sorte d'articulation, si vous voulez, entre les phénomènes révolutionnaires et le schématisme Louis XIVien. Enfin bon, ne nous attardons pas peut-être sur Louis XIV, parce que c'est pas mon objet, justement, je voudrais dissocier l'idée des monarchies de ce schéma.
Alors, est-ce que je peux me permettre donc de rappeler quand même aux auditeurs que cet ouvrage, qui est un fort, fort volumineux ouvrage, qui fait quand même pas loin de 600 pages, vous en avez assuré, là, comme je disais tout à l'heure, la maîtrise d'œuvre, un peu comme, tant pire, je le fais, comme Louis XIV pour son château de Versailles, comme ça on revient Louis XIV, quand il sort par la fenêtre, il revient par la porte. Mais vous avez fait dans cet ouvrage, vous avez fait mener dans cet ouvrage des études sur... Donc, les royautés, telles qu'on les a connues, notamment les royautés antiques, avec, vous signalez quand même les collaborations de Alexandre Grandazzi et les monarchies hellénistiques par Sylvie Le Bouec. Et puis ensuite, on passe au domaine des monarchies médiévales, avec Colette Beaune, qui est une grande spécialiste
professeur à l'Université de Paris,
Nanterre. Ensuite, bien sûr, vous êtes quand même réservé une partie importante, qui sont les monarchies de l'âge moderne, qui est des passages tout à fait extraordinaires. Enfin, la partie rupture et transformation de l'institution monarchique
à la fin du XVIIIe et XXe siècle, étudiée par Jean-Pierre Brancourt,
Guy Antonetti, qui lui a
spécialisé plutôt de l'histoire de la Restauration, les monarchies constitutionnelles du XIXe siècle.
Et
pour le XXe siècle, Philippe le Vilain, pour les avatars des monarchies contemporaines.
Donc, l'ensemble représente... Alors, nous sommes dans le domaine européen. Il s'agit des monarchies plutôt dans le domaine européen.
Je ne crois pas qu'on puisse limiter le système monarchique à l'Europe. Mais il est bien vrai que c'est là qu'il a sa plus longue durée. Et c'est ce modèle... qui a pu par ailleurs se traduire dans d'autres histoires nationales. Par exemple, il existe aujourd'hui des monarchies dans des civilisations arabo-musulmanes ou bien aussi en Asie, mais je crois qu'elles ont été forgées sur le modèle européen.
Et en fait, est-ce que ce serait trop dire que pour ce qui est du modèle, par exemple du modèle français, si vous voulez bien que nous limitions notre propos de ce soir au modèle français, quelles sont ces sources? Parce qu'il y a une source qui nous vient tout de suite à l'esprit, évidemment, c'est une source plutôt scripturaire, c'est les rois de Juda, c'est la monarchie ouinte, la monarchie sacrée d'Israël. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec nos propres monarchies occidentales, notamment la
certainement,
française?
Certainement. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, l'imaginaire médiéval s'est retrouvé dans les rois de la Bible, et que il y a un va-et-vient, puisque les rois du Moyen-Âge conçoivent leur pouvoir comme l'héritier des monarchies de la Bible et que on représente les rois de la Bible à l'effigie des rois médiévaux. Il y a un raisonnement circulaire, si vous voulez. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la monarchie est sans doute le système de gouvernement qui est le plus ancien, le plus durable, le plus spectaculaire, enfin, qui correspond à l'essence même du gouvernement. Alors, ce livre s'inscrit dans une collection qui est l'histoire donc des systèmes politiques, des systèmes de gouvernement qui a déjà comporté un volume qui traitait des empires à travers les âges et les civilisations. D'autres volumes paraîtront sur les démocraties parlementaires, les systèmes totalitaires, ainsi de suite. Il y a plusieurs volumes qui sont prévus. L'originalité du livre sur les monarchies, c'est qu'il essaie justement de traverser les âges et, curieusement, cet exercice, cet essai n'avait pas été tenté auparavant. Vous avez un très grand nombre de très bons travaux sur l'histoire institutionnelle,
Emmanuel Mounier,
politique
notamment,
de la monarchie française.
Roland Mounier,
qui était mon maître. Mais il n'y avait pas d'essai de comparatisme, ce que nous avons essayé de faire avec plus ou moins de bonheur, je ne sais pas, mais enfin, ce qui est une relative nouveauté, on a essayé de mettre en parallèle le destin des monarchies, par exemple, espagnoles, anglaises, scandinaves, à côté des évolutions de la monarchie française.
Est-ce que je peux vous faire une petite remarque? Parce que vous disiez donc que ce livre, ce présent volume, s'inscrit dans une collection dont vous avez annoncé le premier volume et les deux qui suivront, mais en fin de compte, en matière d'institutions politiques, il y en a quand même moins que deux mois dans l'année. C'est-à-dire qu'on a vite fait le tour des systèmes politiques possibles. Une fois qu'on a vu la République, le système totalitaire et la monarchie, on a voit
de quelle manière on les résume, on les schématise. On peut trouver des variations beaucoup plus grandes si l'on descend dans le détail. Ça, je crois que c'est tout dépend du niveau de synthèse auquel vous vous placez. Sur le plan des principes, évidemment, la monarchie, c'est un terme très général, mais qui recouvre ce que j'ai donc tenté de prouver, des structures, des évolutions très diverses, très différentes. Je crois que c'est quelque chose de protéiforme ne se ramène pas au modèle français pour... revenir toujours à ce propos qui est, je crois, tout de même fondamental.
Je crois qu'on le fait vite comprendre. Et on en a beaucoup parlé. Bon, on en a beaucoup parlé, bien sûr, il y a deux ans, même au moment des cérémonies du 15e centenaire du baptême de Clovis, pour montrer que entre Clovis, roi franc ou roi des Francs, et Louis XVI, roi de France, enfin, la monarchie avait quand même connu énormément de changements. Et je partage tout à fait l'opinion que vous venez d'émettre, selon laquelle c'est en fin de compte un régime extrêmement plastique. Et très
oui, je ne crois pas, vous voyez, qu'on ait raison d'enfermer cette évolution institutionnelle dans des catégories rigides qui s'appelleraient, mettons, la monarchie française ou bien l'ancien régime. En fait, c'est une structure qui est empirique, ce sont des structures empiriques constamment évolutive et je ne pense pas du tout que l'état des institutions tel qu'il se trouve sous Louis XIII soit une conséquence fatale, obligée d'une sorte de génétique qui se serait esquissée trois ou quatre siècles plus tôt. Je pense qu'il y a des tournants où le destin social et institutionnel change. Ou d'autres versions auraient été possibles. L'historien se contente de faire le registre de ce qui est advenu, effectivement. Mais à chaque moment de l'histoire, il y a
une autre voie s'ouvre.
Multitude de versions qui s'ouvrent et qui, finalement, ont été fermées par le devenir, par le déroulement des événements.
Et par aussi le facteur humain qui est très important, la complexion psychologique
le hasard,
des hommes
l'accident, compte. Je crois qu'il n'y a pas de loi rigide de l'histoire.
sinon ce serait tout à fait désespérant.
On peut dire, alors, par exemple, si, alors on peut toujours s'amuser à réécrire l'histoire, bon, si Louis XIV, enfant, ne s'était pas senti menacé au Louvre, n'avait pas vécu de façon extrêmement cruelle l'affronte, il n'aurait peut-être pas construit Versailles, il serait resté au Louvre, on aurait terminé la grande galerie, la grande façade, il serait resté là, et puis
si vous permettez, c'est ce que vous cherchez là, c'est une petite circonstance architecturale, certes importante, mais je crois que le destin du royaume aurait pu être différent par exemple François II ou Charles IX avaient vécu plus longtemps, si Henri III n'avait pas régné, si Henri IV était mort au combat, si Louis XIII avait dû céder la place étant mort précocement à son frère Gaston d'Orléans, le destin du pays aurait été bien différent. Donc je crois que il faut comprendre qu'il y a là une succession d'événements qui tient beaucoup de l'accident. Alors,
comme la vie elle-même, d'ailleurs, en fin de compte.
Voilà. Non, mais je ne veux pas, si vous voulez, faire une sorte de prophétisme, enfin de philosophie sur le. Mais je crois que c'est inhérent au métier d'historien. Il faut écrire l'histoire avec. En se mettant dans la pensée, le regard de ceux qui la vivaient au jour le jour et qui ne connaissaient pas, bien entendu, la suite du chapitre que nous connaissons, que nous avons la malencontreuse, maîtrise qui risque de nous induire en erreur, parce que nous connaissons la suite du récit.
Ça, c'est tout à fait vrai. C'est là, d'ailleurs, où le métier d'historien est un métier quand même très difficile, parce que les tentations sont effectivement grandes.
Alors, pour revenir, si vous voulez, à ce livre, j'ai cherché à parler aussi bien, donc, de modèles différents. La monarchie anglaise, dont on connaît les transformations, avec les épisodes des Tudors, avec le schisme anglais, avec la dynastie Stuart, avec les deux révolutions d'Angleterre, avec l'avènement de la dynastie de Hanovre, on a des péripéties qui sont spécifiques, qui sont propres à l'histoire anglaise et qui là aussi n'étaient pas inscrites dans les astres. Alors il y a une historiographie anglaise qui a, au XIXe siècle, comme en France parallèlement, confisqué en quelque sorte le passé en l'inscrivant dans un schéma obligatoire où on aurait vu l'avènement des assemblées représentatives et où l'effacement du pouvoir d'initiative du monarque aurait été une sorte de conséquence obligée. Or, quand on lit l'histoire des révolutions anglaises, de la restauration de Charles II, de ce qu'on appelle la glorieuse révolution de 1688-1689, ensuite de l'avènement effectivement de la dynastie d'origine allemande, on s'aperçoit que chaque fois le destin hésite et que d'autres formes institutionnelles auraient été possibles.
Oui, alors là, j'ai une chose, parce que là, vous touchez à un point qui est un point tout à fait passionnant, et on peut s'interroger, on peut se poser la question. Alors, je vous la pose, bien sûr, moi, béotien, et c'est vous, universitaire, qui allez peut-être me donner les bonnes réponses. On a le sentiment, quand on regarde l'histoire de la monarchie anglaise, que la prérogative royale, contrairement à ce qui s'est passé en France, d'un certain point de vue, que la prérogative royale s'est peu à peu amenuisée au profit d'une autre prérogative qui était celle, par exemple, du Parlement, d'une autre forme de représentation politique, pouvant plus ou moins bien cohabiter, et en Angleterre plutôt bien d'ailleurs, l'une et l'autre pouvant plus ou moins bien cohabiter. En France, on n'a pas eu ce schéma. Évidemment, à chaque règne, les choses auraient pu se passer différemment. On n'a pas eu ce schéma, peut-être aussi pour une question de logique, entre guillemets, de succession. C'est-à-dire qu'en France, la succession est demeurée dans une même famille, évidemment, par à-coup, parce qu'il y a eu beaucoup d'aménagements qui ont été faits, alors qu'en Angleterre, les conflits dynastiques étaient réglés parfois par une substitution d'une autre dynastie.
Mais non, en France aussi.
Louis XII, François Ier n'est pas le fils de Louis XII, Henri IV n'est pas le fils de Henri III.
Oui, mais ça reste dans la même famille.
Et non, c'est pas la même famille. Enfin, si on veut, mais le cousinage de Henri IV remonte au XIIIe siècle. Oui. Alors, si vous voulez, c'est vraiment extrêmement éloigné. Non, on reste également en Angleterre dans la même famille. Il y a un cousinage entre les différentes branches dynastique. Non, je crois pas que soit là la différence.
Ma remarque tombe à plat. Alors, donc, on n'en parle plus. Moi, je voyais ça. Je voyais cette espèce de rupture auxquelles les Anglais, en fin de compte, se sont très bien habitués.
Alors, ce qu'il y a, c'est que, il y a, l'enfermement, donc, dans un schéma fait au 19e siècle, qu'on appelle, l'historiographie Whiggish History. C'est-à-dire, qui veut que le parti Whig ait représenté l'avènement de la représentation nationale et qu'il y ait eu une sorte d'évidence dans la glorieuse révolution de 1688, qui est en réalité un simple coup d'État. Et c'est dans les péripéties de la guerre de succession d'Espagne que, du fait des nécessités budgétaires de la guerre, que peu à peu le Parlement va prendre l'initiative de la gestion financière. Et puis c'est ensuite le fait que on soit obligé, pour rester dans une branche protestante, dans le choix d'un monarque protestant, d'aller chercher un cousin qui est de culture allemande, qu'on a, par la force des choses, une sorte d'éloignement, d'aliénation un peu du monarque par rapport au destin politique.
Alors, autre thème qui est intéressant et qui nous remet aussi en face de notre propre histoire, et vous avez évoqué cette question tout à l'heure, en disant peut-être que le défaut de Louis XIV, on va pas parler de défaut, on constate simplement, et c'est pas nous qui pouvons juger des défauts de ces hommes qui ont eu quand même des responsabilités que nous n'avons pas sur les épaules, évidemment, il faut pas l'oublier. La monarchie, comme vous dites, elle est très protéiforme. En fait, vous avez des rois qui voyagent beaucoup, qui se montrent au stand des Regem. Et puis, vous avez des rois qui ne se montrent que chez eux, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de leur...
C'est-à-dire que ça, c'est une conception du pouvoir qui est, je dirais, peut-être un ethnotype, une manière de considérer le pouvoir qui varie avec la culture d'un peuple. Dans ce qui n'est pas véritablement une monarchie, plutôt l'Empire de Moscovie, le tsar est invisible, sa famille ne se montre pas. Le pouvoir a d'autant plus de puissance qu'il garde un caractère secret. Alors que dans la monarchie française, le roi doit être montré constamment. Et dans l'ensemble des monarchies occidentales, il y a cette nécessité de présence, de caractère spectaculaire. On a dit l'état spectacle, mais ça, je crois que c'est une essence essentielle. Enfin, je dis une bêtise.
Non.
Caractère fondamental du pouvoir en Occident. Il faut que l'ensemble des sujets puissent vérifier la continuité, par exemple, le fait que la reine a effectivement accouché d'un héritier légitime de sexe masculin, dans le cas du Royaume de France, où la loi salique impose la transmission par les garçons. Il y a donc ce regard constant. Et le roi est présent jusqu'à la jeunesse de Louis XIV dans toutes les provinces. Louis XIV, encore, au moment de son mariage,
va en
Pays Basque. Il revient par les Landes, la Guyenne, le Poitou et l'ensemble de ces provinces qui sont situées aux frontières voient pour la première fois dans une génération la présence du roi, et c'est ce qui provoque un sentiment d'appartenance, de fidélité, qui disparaîtra justement avec l'enfermement du monarque dans le cercle de Versailles. Ce qui est un trait qui est tout à fait symbolique, c'est que Louis XVI n'est pas reconnu au moment de la fuite de Varennes. On ne le reconnaît que par son effigie sur les monnaies. Et il s'était aventuré en tout et pour tout à Cherbourg une fois. Il n'était jamais sorti du palais et donc d'un carcan politique en réalité.
C'est un homme plus de dossier qu'un homme de communication.
Non, mais c'est pas. Il était l'héritier là de
une certaine tradition,
de cette tradition qui avait été justement introduite par Louis XIV.
Oui, mais enfin quand même que le rôle de Louis XIV par rapport à Louis XVI, Louis XIV était quand même souvent à la tête de ses armées, en tout cas jusqu'à temps qu'il lui était possible de monter à cheval. De même pour Louis XV, on a quand même beaucoup vu Louis XV sur les champs de bataille.
Oui, mais il y allait Louis XVI, exercer une présence militaire de responsabilité, de commandement. Il n'avait plus. Ce devoir de présence qui était évident pour les monarques de la Renaissance, traversant leur royaume pour aller justement peut-être pour la nécessité des guerres en Italie ou pour signer un traité ou pour épouser une princesse espagnole ou impériale, ce qui les amenait au front. Ils allaient aussi loin que possible dans les frontières du royaume, et à ce moment-là ils visitaient les provinces, et à chaque étape on voyait que on avait un flot d'individus qui venaient pour faire régler à ce moment-là un contentieux provincial qui pouvait être arriéré. Les conseillers du roi suivaient, et il y avait à chaque province, je dirais, une sorte de règlement, de sorte de grands jours royaux qui se tenaient là spontanément. Alors bon, cette dimension a disparu, vous voyez, dans la deuxième partie du XVIIe siècle. Alors quelque chose que je crois qui est important, c'est de montrer qu'il y a d'autres racines du pouvoir, d'autres origines de l'exercice du pouvoir que la succession héréditaire. Dans des monarchies aussi anciennes que la Pologne, que les royaumes scandinaves, le Danemark et la Suède, l'origine du pouvoir vient d'une élection. C'est-à-dire que le principe électif appartient à une assemblée d'État qui réunit les prélats, les grands dignitaires, la noblesse, et souvent aussi des députés des villes. C'est ce schéma ternaire des assemblées d'État qu'on trouve à peu près dans tous les pays de l'Europe. Et c'est à ces diètes, à ces assemblées d'État qu'appartient la désignation du monarque. Alors, il se trouve que des dynasties, des familles se succèdent avec une sanction électorale qui est symbolique, récognitive, c'est-à-dire qu'il se trouve que à chaque vacance, la diète, l'assemblée d'État finit par élire le fils du monarque disparu. Alors on a ainsi l'idée de
quasi,
on confond,
voilà,
l'hérédité et l'élection, mais l'essence du pouvoir est bien élective. Et il y a à partir de la fin de la dynastie des Jagellons en Pologne, au moment où les grands seigneurs polonais vont chercher un prince français, le duc d'Anjou, le futur Henri III. Il y a là une tractation. Effectivement, le roi se soumet à une sorte de convention, de contrat qui lui est proposé, qui lui est dicté par cette assemblée d'État, et dont il va jurer les articles au moment de son couronnement. Et il y a cet aspect donc contractuel des monarchies du Nord et de l'Est qui les différencie considérablement du modèle français.
Il y a aussi, on pourrait dire que dans le modèle français, il y a aussi un contrat qui est quand même l'ensemble du dispositif des promesses du sacre, par exemple.
Alors,
le respect de la loi fondamentale,
les lois fondamentales qui constituent bien une structure qui forme une constitution
non écrite.
Et qui limite effectivement les pouvoirs du roi. Le roi ne peut pas tout, parce que il ne peut pas modifier les modalités de la succession. Il ne peut pas aliéner des provinces. Il ne peut pas vendre des sujets. Il ne peut pas, parce qu'il est le roi très chrétien, il ne peut pas contrevenir aux exigences de la morale chrétienne. Ou s'il le fait, c'est son son salut qui est en cause. Or, ce n'est pas... aujourd'hui, ça peut paraître...
curieux.
Une sorte de... Non, mais de clause gratuite.
C'est très sérieux.
En réalité, c'est profondément ressenti par les rois du XVIe et du XVIIe siècle qui ont certainement une angoisse d'être indigne de la mission qui leur est confiée. Et alors, c'est assez curieux, vous voyez, on considère que ce qui menace les puissants, les rois, c'est une maladie qui appartient au système de la pensée humorale du XVIe, XVIIe siècle, c'est la mélancolie, l'humeur noire. La mélancolie, c'est la maladie de Saturne qui dévore ses enfants. C'est le père, si vous voulez, qui est investi d'un pouvoir infini et qui n'est pas capable de maîtriser les devoirs, enfin la situation qui lui est impartie. Et alors, on imagine que un roi, s'il peut devenir fou, doit être mélancolique. Il y a un livre d'un médecin anglais du début du XVIIe siècle qui s'appelle « L'anatomie de la mélancolie » et qui montre un roi accablé par un roi hypochondriaque et qui est accablé par le devoir de sa charge.
C'est tout à fait surprenant. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, des choses qui mériteraient des heures et des heures d'émission, parce qu'il y aurait de quoi vraiment bavarder jusqu'à la fin des temps. Et c'est très beau ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé et qui m'a... Quand vous dites que, bon, dans la Moscovie, on cache le roi et sa famille, et par contre, en France, on le montre.
On le montre.
Et alors c'est très curieux, parce qu'au plan de la liturgie, c'est un petit peu la même chose, en fin de compte. Parce qu'on cache la consécration chez les moscovites, chez les orthodoxes,
oui.
L'iconostase.
Oui, oui.
L'iconostase est supprimée en Occident, c'est une chose très curieuse.
Le sultan, également, est caché... Et c'est dans l'esprit des Français du XVIe ou du XVIIe siècle, de ceux qui écrivent, qui ont voyagé et qui écrivent sur la chose politique, ils considèrent qu'il s'agit d'une forme de tyrannie, que la tyrannie, c'est l'exercice sans limite d'un pouvoir qui est dépourvu de tout contrôle, de toute morale, et que la tyrannie est le propre de souverains comme le Grand Turc, comme l'empereur de Chine ou comme l'empereur de Moscovie. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait étranger à l'esprit français parce que les Français sont libres. C'est quelque chose qui...
Ils
ont une liberté native.
Ils sont francs.
Ils sont francs.
Au sens étymologique.
Et alors cette liberté, vous la trouvez dans d'autres mythologies nationales. Les Anglais parlent également de la liberté native des Bretons qui leur vient du roi Arthur, qui vient de leur origine, puisque chaque dynastie cherche à se rattacher à une longue filiation mythologique qui va la confondre avec la nuit des temps, qui lui donne une force, une légitimité intemporelle. Alors bien sûr, il y a on l'a dit tout à l'heure, des changements dynastiques, des assassinats, des complots, mais l'imaginaire veut qu'il n'y ait qu'une seule souche qui vienne du fond des âges et qui incarne la légitimité dans un pays donné.
Est-ce que vous trouvez, enfin je sais pas, je crois aussi que la question est un petit peu abordée dans un des chapitres de l'ouvrage, en fin de compte, qu'il n'y a pas aussi des réminiscences de royauté dans les systèmes actuels, même les systèmes de république que nous vivons?
Oh ben, bien sûr, dans la mesure où l'incarnation du pouvoir dans un individu, c'est au sens étymologique une monarchie, et que constamment la recherche de la sécurité qu'apporte la continuité, la légitimité, suscite ces attentes. Je crois que ce sont des besoins intemporels de toute société politique et qui font que il y a constamment une reconversion vers la monarchie de toute forme de gouvernement.
Voilà, merci cher professeur. Je dois dire, bon, là, les mots manquent pour dire ce qu'on pense d'un pareil livre. C'est vraiment un livre formidable, c'est-à-dire d'abord parce que c'est extrêmement instructif et qu'on a toujours intérêt à s'instruire, mais surtout ça fait quand même travailler aussi beaucoup, je dirais, beaucoup l'imagination et beaucoup la réflexion, si on a la volonté, évidemment, de regarder ça dans le détail. Donc, vous venez d'entendre, vous avez eu le bonheur d'entendre Yves-Marie Berset, qui est venu vous parler de l'ouvrage écrit sous sa direction « Les monarchies », auquel il a lui-même aussi largement contribué, pas seulement par une introduction, qui rentre dans l'histoire générale des systèmes politiques. C'est publié aux presses universitaires de France. Le livre fait à peu près pas loin de 600 pages. Alors, il faut toujours dire le prix, parce que c'est plus pratique pour les éditeurs. C'est 298 francs, donc c'est un livre à s'offrir. Il est relié, étoilé, enfin, avec une jaquette. Il est tout à fait superbe. Alors, j'ai un petit message pour le professeur Berset de la part d'élèves de l'école des Chartes. Je vous avais dit, j'étais sûr qu'il y en avait qui écoutaient, qui sont très heureux d'entendre leur vénéré directeur, auquel ils demandent « Quand organiserez-vous un cours sur les mentalités politiques ?» et le sentiment légitimiste dans l'ancienne France.
Ah bien,
oui, on passe les, commandes.
Il faut distinguer le rôle que j'ai à l'École nationale des Chartes, où je n'ai pas une grande part d'enseignement, où j'exerce avant tout des fonctions de direction, d'administration, de gestion, et puis mon travail de professeur, où là, je ne suis pas limité par un programme particulier, et ce travail d'enseignement, c'est dans le cadre de l'université Paris 4 que je l'accomplis.
Merci, professeur Yves-Marie Berset. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Benita Carteron. Merci, Marie. Je donne juste un dernier petit message aux auditeurs. Pour le dîner du 15 mai avec Serge de Becquet, il y a encore quelques places. Il faut appeler ce soir jusqu'à 10h au 01 45 23 51 01. Chers amis auditeurs, merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Et à la semaine prochaine, si vous voulez bien. Et d'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Becquetch, dirigé successivement par Serge de Becquetch et par Daniel Amiche, assisté de Marie. Document d'archives du 13 mai 1998, rediffusé dimanche 5 octobre 2014 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Immortel, volontaire et officier blanc.